Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 29, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085. Par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistant.
Merci. Ça va-t-il ?
Ça va.
Bien.
Ça résiste.
J'espère que tout le monde va bien. Programme de ce soir. Alors, la première partie. Aujourd'hui, je donne le programme exceptionnellement.
Vous avez raison.
Ça permettra à nos auditeurs de nous quitter.
Mais voilà, non, ils nous aiment.
Ils ne veulent pas nous écouter, ils s'en iront. Donc, le Marquis. On va commencer par le Marquis, puisqu'il a déjà pris la parole. Ensuite, on donnera la parole au Père Arguach. Et devinez pourquoi. Ensuite, je reçois Christian Pérez et le pasteur Blanchard. Le pasteur de Le Retour, comme il le dit lui-même.
Bonjour Serge.
Salut pasteur. Je l'ai dit, pasteur, on a parlé avant l'émission, j'ai appris qu'il croyait dans la présence réelle.
Mais comme tout bon luthérien, nous sommes les seuls à croire dans le protestantisme, mais à la présence pas, réelle, mais pas à la transsubstantiation.
C'est tellement plus simple d'être catholique, au lieu de vous enquiquiner avec des histoires comme ça, c'est bien compliqué vos affaires. Enfin bon, on va arranger ça après l'émission. Daniel Raffard de Brienne, président de l'Association des écrivains catholiques, personne ne sera mieux venu que lui pour vous convertir. En deuxième partie, Bernard Anthony, Alain Sanders, maître Valerand de Saint-Just, mon avocat, mais rien à voir. Et Cécile de Montmirail. Cécile Montmirail, il n'y a pas de particule. Là.
On a repassé son film hier soir.
Oh, non, c'est pas une visiteuse, elle est journaliste et elle viendra nous parler de choses et d'autres. Voilà, c'est le programme. Je voudrais saluer M. Sarkozy, qui a fait récemment un constat tout à fait intéressant, qui donnera lieu d'ailleurs à une chronique de Pierre Descaves dans un tout prochain numéro de présent, je le signale. Sarkozy a déclaré devant l'Académie des sciences morales et politiques, alors moi déjà, une phrase dans laquelle il y a morale et politique à côté, j'arrête.
Antinomique.
Il a dit, en 1905, la France profonde était rurale et catholique, en 2005, la France profonde est banlieusarde et musulmane.
Et banlieusard, c'est une religion.
Non, mais c'est comme rural. Enfin, c'est le parallèle de rural.
Tout dépend de ce qu'il entend par profond.
Oui.
Ça, faut s'adresser à Cécilia.
Alors, vous avez vu l'histoire... Je ne comprends rien à votre conversation, monsieur, vous me paraissez complètement... Hein. Vous avez vu l'histoire de la SNCM ?
Oui.
Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Cette histoire de bateau, détourné par des pirates syndicalistes...
Oui, pareil.
Sur lequel on envoie 6 hélicoptères... du GIGN et du commando Hubert. On sort pas des Montmirail, d'ailleurs. Hubert!
Hubert.
Le commando Hub. Et qui n'oppose absolument aucune résistance. Vous voulez que je vous dise comment ça s'est passé? Il y a eu un contact direct entre les autorités de l'État, pas le doigt, et les pirates. Et on leur a dit, bon, ce que vous avez fait est une couennerie, vous risquez 20 ans de prison pour piraterie. Donc vous allez baliser ferme, vous allez arrêter, mais on va pas vous faire perdre la face. Donc on va envoyer des gens qui vont vous arrêter, et vous n'opposerez aucune résistance. Et ils ont dit d'accord. Et c'est comme ça que les gars du GIGN et du commando HUP se sont posés sur le bateau, et où ils ont trouvé des syndicalistes de pointe qui se sont naturellement gardés de la moindre résistance, qui ont présenté leurs poignets aux menottes, on les a menottés, ils rentrent auréolés du martyr syndical, et Sarkozy adresse ses félicitations aux gendarmes du GIGN qui ont réussi un coup de maître sans coup férir. Voilà comment on vous manipule, mes chers auditeurs.
C'est pourquoi la radio et la télévision, effectivement, entre midi et une heure, on assistait sur l'élégance de tout ça, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de
entre
une côte,
tout ça. N'empêche que ces mecs, ils sont coupables de piraterie, et que s'il y a une justice en France, ils doivent prendre 20 ans ferme. Alors maintenant, on les attend.
C'est une autre histoire.
Les magistrats. Et naturellement, Perben a dit une connerie à la surprise générale. La stupeur. Tout le monde dit, comment? Perben a dit une bêtise? C'est pas possible. Si. Bon, c'est invraisemblable. Pourtant, il était ministre de l'Intérieur. De la justice. Oui, mais il a été, maintenant, il est ministre des Transports.
Et quand il était à la justice, c'était un fléau.
Pour des raisons exclusivement personnelles, oui.
Serge de Bekech, nous avons 500 000 lois en France. Comment voulez-vous qu'on applique une telle quantité de lois?
C'est vrai, c'est impossible. Ah tiens, à propos de bottes, comme disait mon grand-père, je voudrais vous montrer comment... C'est tellement caricatural que c'est presque un rêve. Comment on manipule l'information. Il y a un journal qui s'appelle L'Indépendant de Lyon. Alors, la seule chose qui est vraie dans son titre, c'est qu'il paraît dans Lyon. Alors, à la une, il y a une photographie qui présente une plaque qui a été apposée à la gare de Champigny, à la gare SNCF de Champigny, comme s'il y avait des gares RATP ou des gares...
Des gares routières.
Des gares routières, oui. D'accord. Hein. Donc à la gare SNCF de Champigny, une plaque en souvenir du mitraillage des voyageurs a été apposée. Alors il y a la photographie de la plaque dans le journal, L'Indépendant de Lyon. On voit cette plaque qui dit la chose suivante. En ces lieux, dans l'après-midi du 14 juillet 1944, un train de voyageurs fut pris sous le feu d'un mitraillage aérien d'un convoi militaire allemand faisant une quarantaine de victimes civiles. Passant, souvenons-nous. Alors on peut dire que le rédacteur de cette plaque, il ne doit pas concourir pour le Nobel de littérature, mais enfin... En tout cas, je crois qu'on comprend en gros ce qui s'est passé. C'est donc un convoi allemand qui circulait dans la gare et qui a été un convoi de chemin de fer.
On s'en doutait.
Oui, dans une gare, c'est quand même assez logique. Et qui a été mitraillé depuis le ciel par la chasse probablement anglo-canado-américano, tout ce que vous voulez. Alors voilà la légende de la photographie de la plaque. Je vous dis, on dirait que ça a été fait exprès pour me donner un sujet. Elle est discrète mais en bonne vue. Une plaque... Elle est discrète mais en bonne vue. Une plaque commémorative a été apposée sur la façade de la gare SNCF de Champigny. Elle rend hommage aux victimes d'un mitraillage aérien allemand survenu dans l'après-midi du 14 juillet 1944. Un convoi militaire allemand a ainsi abattu une quarantaine de civils. Les voyageurs d'aujourd'hui découvriront et se rappelleront cette tragédie, une parmi tant d'autres, de la Seconde Guerre mondiale dans le Sénonais. À l'époque, L'événement avait fait la une du Bourguignon, où l'on pouvait lire, de point voilà les guillemets, à Champigny, un train vient d'être mitraillé, 26 tués, on ne compte plus les blessés. Point, fermé les guillemets.
Aujourd'hui, ça fait un bœuf.
Non mais vous Bourguignon, vous rendez compte oh. Alors, le type qui a écrit ça, ou c'est un crétin,
oui.
C'est probablement ça, mais en plus c'est un salaud. Comment est-ce qu'on peut mentir d'une façon aussi grossière? Et moi, en tant que lecteur de l'Indépendant de Lyonne, si j'étais abonné, d'abord je leur foutrais un procès au cul. Parce que se moquer du monde à ce point-là, c'est diffamatoire pour le lecteur. Oui. Ben, c'est incroyable. Vous imaginez un convoi allemand de, je disais, les Panzer volants, les célèbres Panzer volants qui parlent, oh, il faut des civils dans la gare, mitraillez-les! Boum, 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 boum. Voilà. Ah non, mais c'est hallucinant. Voilà comment on fait de l'information en France.
C'est l'industrie de la plaque, il y en a partout maintenant.
Oui.
Il n'y a pas une école où
on a... les dentistes. Près de dentaire.
Voilà.
Voilà. Et puis, tiens, mais tout va bien parce que ça, c'est le, c'est présent qui annonce ça. La police a trouvé le remède miracle à l'agitation juvénile dans les cités. Les jeunes. Ah,
qu'est-ce qu'ils vont faire?
La police reçoit le renfort, nous dit présent, de 19 000 Playmobil. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, voilà. Qui a dit que la police n'avait pas les moyens, écrit Caroline Parmentier. L'administration qui veut améliorer l'image des keufs, c'est les flics, hein, dans les quartiers difficiles, objectif prioritaire s'il en est, a fait livrer 19 000 petites figurines de type Playmobil en uniforme de flics aux fonctionnaires de Seine-Saint-Denis afin qu'ils les distribuent aux jeunes du département. Cette belle opération doit avoir lieu lors de la semaine de la jeunesse au mois d'octobre prochain. La Seine-Saint-Denis étant le département le plus sinistré de France par les violences des bandes, les trafics dans les cités, la drogue, les agressions de policiers ou les incendies de voitures de commissariats, on comprend bien, pardon, que le gouvernement ait voulu mettre le paquet. Comme le fait remarquer le syndicat Alliance, premier syndicat de gardiens de la paix, le département souffrant d'un manque criant d'effectifs reçoit de l'administration un renfort conséquent, 19 000 Playmobil en tenue. Alors, je trouve ça génial, je rigole, mais en fait c'est absolument génial parce que, tiens, il y a les BBR prochainement, hein, il va y avoir du monde au BBR, c'est le
7
et 8 octobre, c'est pas le 8 et 9.
8 et 9,
ah,
9, oui.
Attention Pasteur, n'essaye pas de saboter cette manifestation en donnant des fausses dates.
Hein. Bon,
au Bourget, 8 et 9. Alors, tout le monde sait que les militants du Front National sont racistes, ça c'est absolument établi, c'est écrit dans tous les journaux. Pourquoi Playmobil ne ferait pas une distribution de petits beurre Playmobil à l'entrée?
Avec
le billet. Ben non, avec le billet. Ben comment? Avec le billet, on vous donne. Ça, tenez. Puisque ça marche avec les beurres pour les faire aimer les flics, je vois pas pourquoi ça marcherait pas avec les militants nationalistes pour pouvoir aimer les beurres.
Ben, parce qu'ils continueront à penser que c'est une plaie, mobile ou pas.
Il faut rappeler, Serge, que le commissariat de Saint-Denis a été l'objet, il y a 15 jours à peine, d'un scandale invraisemblable, trafic d'influence, trafic de drogue, violences diverses, ça ne nous a pas échappé. Je pense que dans ce commissariat de Saint-Denis, bon, il y a plusieurs dizaines de fonctionnaires compromis, je crois, jusqu'à la direction jusqu'au commissaire lui-même.
Trafic de drogue.
Oui.
C'est en plein hiver qu'il doit y avoir du trafic de drogue, c'est pas... Bon, mais non, mais on croit rêver. Alors, attendez. Donc, voilà. Pour résoudre les problèmes, distribuer des Playmobil. Alors, il faut par exemple, aux syndicalistes du bateau, là, il faudrait leur distribuer des Playmobil de gendarmes, et puis aux gendarmes, on leur distribuerait des Playmobil de marins. Comme ça, tout le monde s'aime. Et les syndicalistes corses, on leur distribue des Playmobil de capitalistes, puisqu'ils veulent pas être privatisés. Donc, aimez les capitalistes, vous avez un petit Playmobil pour jouer avec. Ça fait quand même penser, vous savez ce qu'ils vont faire les gens avec toutes ces Playmobil? Ils vont planter des aiguilles dedans.
Ils vont faire des vaudous.
Bah oui.
Vaudou qui revient.
Bah voilà. Chaque beurre va avoir dans sa poche un truc de gendarme ou de flic qui va piquer, et puis de l'autre côté, pareil.
On pourra chanter, le vaudou est toujours debout.
le vaudou est toujours dehors.
Oui.
Voilà, c'était ça que je voulais dire. C'est quand même, je suis content de voir que sous Sarkozy, au moins la police, ça marche. C'est pas un jeu.
Lui aussi, c'est
voilà
une Playmobil.
Oui, c'est vrai qu'il est très mobile.
Oui.
Il me plaît pas beaucoup, à moi.
Voilà.
Et vous vouliez nous parler, nous donner des bonnes nouvelles de notre prince, mon cher Marc.
Oui, j'ai vu notre prince.
Parce que je rappelle que quand même, on est royaliste et légitimiste.
Voilà, alors on a encore une chance.
Sauf Goffman. Qui est...
Oui, mais enfin...
Ces jours-ci, je suis plutôt orléaniste, depuis que nos camarades Jean-Michel Chauvin et Olivier François, qui sont venus à cette antenne d'ailleurs faire leur campagne, ont réuni 250 suffrages royalistes dans la partielle qui a eu lieu dimanche dans le 92 Sud.
Hein.
250 de voix, 0,94%. Est-ce que c'est pas le moment de chanter? Il y en a pas un sur 100, mais pourtant, ils existent.
Vous citez Léo Ferré.
Les royalistes.
On va y arriver.
C'est bien, ça.
On va y arriver.
Mais ils étaient soutenus ouvertement par le Libre Journal. Que voulez-vous qu'il arrive?
Bah oui, qu'il arrive, bien sûr.
Mais je ne désespère pas de Goffman, il commence à fréquenter les reines. Alors, de là, ce qu'il fréquente les drag queens, on va y arriver. Donc, le prince et son épouse, alléluia, ne sont pas restés seulement à Madrid, ils sont venus à Paris. Et il y avait lundi soir au Précatelan une réception gigantesque. Et moi qui souvent dis tout le mal que je pensais de l'organisation de l'Institut de la Maison de Bourbon, je suis obligé de rendre un hommage aux organisateurs. C'était absolument parfait. Et il y avait plus d'un millier de personnes. Les buffets étaient abondants, de qualité. Et il était tout à fait inutile de faire le coup de poing pour manger un petit four. C'est quand même assez rare, il faut le signaler. Et puis, évidemment, beaucoup d'ambassadeurs étaient conviés, aucun n'est venu. Personne ne veut comprendre que personne n'a envie d'avoir des ennuis avec le Quai d'Orsay. Enfin, moi je suis monarchiste, mais quand on a un prince prétendant au trône qui est sur le territoire de la République, déjà la République est bonne fille quand même quelque part, et qu'on invite tous les ambassadeurs en poste, on est à peu près certain qu'ils viendront pas. Mais enfin, au moins on a fait le geste. Sinon, il y avait tout le monde comme d'habitude, les gens qu'on voit partout. Voilà. Et je voudrais particulièrement saluer à la fois des auditeurs étrices et des lecteurs étrices qui me sont très très gentiment tombé dessus pour me dire mille choses aimables sur le Libre Journal. Je ne parlerai pas d'autre chose. Et entre autres, je voudrais saluer des dames qui... alors, comment pourrais-je dire, en n'étant pas galant, c'est pas facile. Enfin, disons qu'elles sont un peu plus âgées que moi. Ce sont des... Elles s'en reconnaîtront. Elles
oh là là.
Oui, voilà. Bon.
Elles habitent. Et elles marchaient normalement.
Ah oui, très bien. Elles ont même bondi de leur chaise pour m'embrasser. Alors, je vais vous dire... Bon. Eh bien, ces dames qui sont des supporters du prince et qui sont des supporters de Serge Bekech aussi. Enfin, elles sont monarchistes. C'est des dames très très bien. Un jour, dans un papier du Libre Journal, j'avais dit que le duc de Beaufremont était entouré de pintades. C'était un risque que j'avais couru. Je me suis dit, la prochaine fois, le 21 janvier, je me prends une baffe à la sortie de la messe. Non, pas du tout. Et ces dames, charmantes et pleines d'humour, ont décidé entre elles de s'appeler les pintades. Et à chaque fois qu'elles me voient, elles ont l'air très heureuses de me rencontrer. Moi, je suis très content de parler avec elles. Elles sont jolies, sympathiques, fraîches, pleines d'humour et pleines d'enthousiasme. Alors, je voudrais leur dire, mes patates chéries, je vous aime, que Dieu vous garde.
C'est très gentil. Voilà, les embrasser. Si c'est la première fois de ma vie que j'embrasse une patate, mais ça me fait bien plaisir.
C'est joli, les patates. Maintenant, si vous voulez me poser trois questions sur le prince, je vous réponds.
Est-ce qu'il est toujours aussi grand?
Je ne sais même pas si ça va s'arrêter un jour. Je lui ai rappelé que quand même, la dernière fois que j'avais vu à Madrid, il m'arrivait à l'épaule, et maintenant, il y a deux têtes de plus. Ça m'a quand même permis, sans me hisser sur mes ergots, de m'apercevoir, je dis ça pour ses admirateurs, qu'il doit avoir un problème parce qu'il a un appareil dentaire qui lui serre les dents. Voilà. J'ai tout regardé.
Vous êtes observateur. Hein.
Oui. Alors certains diront que c'est parce qu'il a les dents longues et que c'est peut-être pour le freiner, j'en sais rien. Mais on peut souhaiter
non,
qu'il ait
les dents.
Mais moi, j'aimerais bien qu'il les ait.
Oui, un peu plus.
Quant à son épouse...
Alors, est-elle belle?
Elle est élégante. Elle est charmante.
Donc elle est belle.
Et elle est américaine du Sud.
Ma question
à revoir dans 30 ans.
Elle est vénézuélienne, donc elle est forcément belle. Elles sont élues Miss Monde une fois sur trois.
Bon, moi je vais aller jusqu'au bout, puisque vous me poussez dans mes retranchements. De toute façon, vu de dot, comme disait l'autre, elle est très belle.
Incontournable, vous comprenez, voilà. On le fait venir pour dire du bien, voilà.
Ben, c'est ce que je fais. Tout le monde était là, j'ai eu le plaisir.
Pour dire du bien, pas parler du bien.
Ah bon, d'accord. J'ai eu le plaisir de saluer ce personnage que j'admire beaucoup, qui est l'abbé Charleroux, qui, une bonne fois pour toutes, s'est arrêté, on dirait, à l'âge de 70 ans, magnifique. Alors qu'il est non-ingénaire plus quelque chose. Et quand on le voit, on se dit, oui, bah, c'était le confesseur de Marie-Antoinette. Enfin, c'est l'impression qu'il donne. Et il était là, très frais, très charmant, très bien. Enfin, tout ça est très bon ton, voilà.
Et alors.
Mais je vous rassure, hélas, la République peut dormir tranquille.
Bon, c'est ça. Ouais. Pendant qu'on mange les petits fours,
Il se passe rien de particulier. Il y a un message qui est passé qui me demandait de parler du mariage Arnaud. Genre, c'est pas la peine. Il y en a eu dans tous les journaux, partout. Le milliardaire Arnaud a marié très joliment sa fille à l'héritier du Gancia et de la Cispoumante. Et bien voilà, la vie continue. C'est l'endogamie. Voilà.
Oui, mais moi, j'ai regardé le journal dans lequel. Qu'est-ce qui vous arrive, mon cher Patrick? Vous êtes en train
de... Quand il y a un fauteuil qui est propre ici, il n'a pas de pied.
Il a cassé le matériel.
Non, il est déjà cassé depuis longtemps.
Bon, je vous démontre.
C'est ou roulette ou manche propre.
Il a cassé un fauteuil. Je vous serais dénoncé parce que je ne veux pas qu'on croie que c'est moi, étant donné que je suis un peu.
Mais là, vous avez le fauteuil du chef, vous ne pouvez pas casser les fauteuils des humbles.
Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de.
D'Arnaud.
Oui, d'Arnaud. J'ai vu le reportage, 22 pages dans Paris Match.
Oui, il y en a autant dans Point de Vue, il y en avait autant partout. Il y a une chose qui me gêne un peu quand même, c'est de voir mon ami Charles-Philippe d'Orléans venir dans l'uniforme de Saint-Lazare à ce genre de... Alors on sait pas si...
Comment... Oui, il était habillé en cheminot, non?
Non, ben justement, je vais vous dire, comme en plus on conteste sa présidence de l'ordre de Saint-Lazare, son titre de duc d'Anjou, enfin, là, qu'il vienne habillé comme ça, c'était peut-être pour poinçonner les tickets à l'entrée du bal, mais bon, je lui conseillerais très gentiment...
Est-ce qu'il avait son sifflet?
Charles-Philippe, ben je ne sais pas, mais...
Blague dans le train.
Il était là tout simplement parce que sa maman, la princesse Béatrice d'Orléans, c'est la directrice de Dior Espagne, et comme Arnaud c'est Dior, tout s'explique. Mais je crois qu'il serait venu en jaquette, flottante ou non, ça aurait été mieux que de venir en un uniforme d'un ordre contestable. Voilà.
Puisque vous parlez des considérations, pardon, de famille.
Oui, si on peut.
Je dois annoncer que. Nous avons un projet, on peut l'annoncer, c'est une façon de prendre date, comme ça on risquera pas de nous piquer l'idée.
Ah oui,
on va publier...
Ce dont qu'on a causé dans le métro.
Ce qu'on a causé dans le métro.
Ouais. Ah bah oui, puis comme ça va vous obliger à y penser.
Voilà. Vous circulez en métro tous les deux, mais quelle simplicité.
C'est pas le métro, quoi.
Et moi j'ai une carte formidable avec la carte de métro, je t'expliquerai.
on va publier le kiki du marquis.
Le kiki du marquis.
Mais alors que l'autobiographie
est
à peine sortie des presses.
Le kiki du marquis, c'est une chose, ça n'a rien à voir. C'est si on avait le droit, on aurait appelé ça le wouzou du marquis. Mais heureusement, on peut pas se déposer. Donc on a dit, on va l'appeler le kiki, parce que le wouzou, ça veut dire kiki. Et c'est très amusant. C'est, il a fait donc un, comme il connaît le banc et l'arrière-banc de la Jet Set. Il a tous les liens entre ces gens, qui est marié avec qui a été marié avec qui se mariera avec qui est l'enfant d'eux, etc. Et c'est drôle, on trouve des choses. Moi, j'ai trouvé des choses très amusantes là-dedans. Donc, je pense qu'on va publier ça à partir du mois de janvier.
En feuilleton
dans le Libre Journal. Et il y aura des révélations.
Des scoops.
Sur notamment le pasteur Blanchard, la vie agitée du pasteur Blanchard.
Je vous dis que si on n'a pas d'informations, on inventera, c'est pas grave.
Voilà. Bien, oui, un auditeur me fait remarquer que le commandant Hubert était le premier officier français tué au débarquement de Normandie. Je sais ça. Ma saillie n'avait aucun caractère désobligeant à l'égard de ce héros. Simplement, mobiliser le commando Hubert pour virer à coup de pompe dans le derche une poignée de syndicalistes avinés, je trouve que c'est quand même à faire un peu trop de cinéma. On aurait pu se contenter d'envoyer une paire d'hirondelles, c'est-à-dire les gendarmes avec la pèlerine, des policiers avec une pèlerine, ils auraient facilement... oui, c'est exactement ça. Voilà. Je dis que cette histoire a été montée de toutes pièces entre le pouvoir et les syndicats pour faire croire d'un côté qu'ils résistaient et de l'autre côté qu'ils n'allaient pas céder. Et nous sommes là, les uns comme les autres, très très forts, etc. Tout ça, c'est du pipeau médiatique. Pointe à la ligne. Voilà, nous avons parlé. J'attendais le père Agouet, je ne sais pas où il est passé.
Je vais lui céder la place.
Oui,
non,
mais
non, parce qu'un auditeur vous dit, cher marquis, Louis de Bourbon n'est pas prétendant. Il est.
Ah oui.
Les prétendants seront tous les autres. Ta-ta.
Là, vous avez un problème, Marquis, parce que moi qui ne suis pas monarchiste, lequel est le bon?
Moi, j'ai aucun problème.
Je suis protestant, je ne veux pas être monarchiste en plus.
J'ai aucun problème. Alors là,
enfin, c'est pas le sujet, on en reparlera, mais voilà. C'est évident, on ne peut être que royaliste, on ne peut être royaliste que si on est légitimiste, autrement, ça n'a aucun sens. Bon.
Est-ce que je dois attendre le départ du Marquis pour signaler à l'assistance publique qu'il vient de faire paraître son autobiographie? On en a déjà parlé dans le Libre Journal, alors je peux en dire un mot.
Avant vous voulez, mais merci. Vous êtes, prenez vos responsabilités.
Alors ça s'appelle Papier Crayon, chers auditeurs, Tris.
Ça s'appelle Papier Crayon.
Prenez un papier, un crayon pour noter, chers auditeurs et Tris, que surtout si vous nous écoutez à Canberra ou en Floride, comme vous êtes très nombreux à le faire, à Québec. Ça s'appelle Mais ceci est une autre histoire. C'est donc l'autobiographie du Marquis, 338 pages extrêmement serrées. Comme moi, je suis pas modeste, je vais tout droit, je commence par la fin, je vais à la page 338 et je trouve des remerciements à Serge de Beketch qui m'a poussé à l'écriture, à mon ami Jean-Pierre Marville qui m'a encouragé durant de fabuleux déjeuners et dîners aux meilleures tables de Paris, et à tout seigneur, tout honneur, à Patrick Goffman, réviseur, correcteur, non syndiqué. Mon Dieu, qu'il est spirituel.
Le réviseur Gogol.
Voilà. Et puis, voilà. Et puis, il me donne le bouquin, puis il y a la liste des fautes que j'ai laissées. C'est vraiment sympathique. Car vous ne l'aurez pas, vous n'aurez que ces mémoires avec un énorme cahier de photos noir et blanc, un petit cahier de photos en couleur qui sont extraordinaires, puisqu'on vient de vous rappeler qu'il était très mondain. Donc c'est la terre entière, toutes les sommités, toutes les vedettes internationales, bras dessus, bras dessous avec notre cher Marquis. Et alors, il en coûte 24 euros plus 4,60 euros de porc. Ça fait, il me semble, 28,60 euros de cochon. À envoyé à la Société des Écrivains, 149.
Non, mais je suis gêné.
Ah non, parce que je voyais le Marquis
qui faisait des gestes.
Non, je pense à l'affaire Dreyfus et au fameux dessin. On n'en parlera pas, ils en ont parlé.
Voilà, je vous arrangez avec Goffin, c'est pas mon problème. Moi, je suis étranger à tout ça.
Alors, nous avons donc dit, ne lâchez pas le papier ni le crayon, nous avons donc dit 28,60 euros, port compris, à la Société des Écrivains, 149, rue Saint-Honoré, 7501, Paris, France.
Bien, ben là-dessus, on va faire, par une liaison habile et adroite, on va faire venir le père Argouache, qui, je pense, sera content de venir s'exprimer à ce micro. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, il était dans le studio.
Il attend l'huissier, qui n'est autre que notre divin Marquis.
Alors, on va écouter autre chose, puisque le père n'est pas là. C'est le moment ou jamais.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie a voulu l'honorer en créant le prix Daudet. Cette année, le prix Daudet sera décerné le dimanche 6 novembre, lors de la fête de la langue française, 18e anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix Daudet est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Votez pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou les producteurs de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le dimanche 6 novembre, les adhérents participant au déjeuner éliront par vote à bulletin secret celui des 10 noms qui sera proclamé prix Daudet 2005. Vive la langue française.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Bien, alors, je pense que maintenant tout le monde sait comment fonctionne le prix Daudet. Il faut écrire, on reçoit le moyen de voter, ensuite on vient au dîner de Radio Courtoisie, qui cette année va être somptueux, je vous le dis tout de suite, qui est un déjeuner, c'est d'autant plus somptueux pour un dîner, il a raison, Franck, de le faire remarquer, c'est tellement somptueux que c'est un dîner qui commence à déjeuner, vous voyez, c'est ça. Non, parce que moi je déjeune pas. Je ne dîne pas non plus, je mange très peu, comme vous pouvez le voir, et donc j'ai pas l'habitude. Et non, mais c'est un événement considérable, et il faut y venir, il faut y participer, c'est quand même l'un des prix littéraires, hein. Pas littéraire, enfin c'est l'un des prix c'est unique, puisque c'est un prix qui couronne un utilisateur ou une utilisatrice adroite, prudente, intelligent, comme on pourrait dire encore, de la langue française, qui est la plus belle chose du monde.
Vous dites cela, Serge, couronne, sous la, une photographie de Vladimir, du regretté Vladimir Volkov, qui précisément s'était fait une couronne humoristique avec son, son prix d'Odet. Ouais,
mais qui le méritait bien, et il l'a eu. Alors, je me disais, tiens, qu'il y a eu une femme qui l'a eu, jusqu'à présent, je crois, hein, c'est ça, je ne me trompe pas.
On est encore plus misogyne que le PS, alors.
Non, faut exagérer, c'est pas de la misogynie, c'est comme ça, c'est le hasard. Mais je me disais qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui parle parfaitement le français, et qui est une femme. Enfin, sauf erreur de ma part, bien sûr. Un Victoria, non, on va appeler à voter Victoria pour le prix d'Odé.
Non, mais vous avez fini, vous devez payer ma tête.
Je ne paye pas votre tête.
Ah, bah, bravo.
Je trouverais ça d'une justice absolument immanente.
Pour les nombreux textes que j'ai écrits, ça mériterait quand même.
Non, la langue française, ce n'est pas que ce qu'on écrit, c'est aussi ce qu'on dit.
Non.
Vous parlez un français parfait.
Admirable.
D'institutrice. Mais voilà, mais quoi.
Mais bon.
Alors, à travers vous,
ringard et vieille
comédie française. Toute la fonction sacrée de l'institution. Instituteur qui sera couronné
de moquer le prix
des millions d'instituteurs à travers les siècles. Mais c'est pas moqué, alors si, écoutez,
si,
d'abord j'ai le droit de dire pour qui je voterai, moi je voterai pour vous, voilà, après, les auditeurs font ce qu'ils veulent, mais moi je voterai pour vous.
Les auditeurs sont pas fous, donc ils feront pas comme vous.
Oh, ouais. Mais je vous rappelle que j'ai voté Lugan et qu'il a été élu. Alors, j'ai quand même un certain pouvoir, une grande famille. Voilà, donc, non, le prix d'Odé, c'est bien. Moi, je ne désespère pas de l'avoir, mais pas avant une trentaine d'années, à titre posthume. Voilà. À l'exemple de manipulation de la presse, M. Josserand, ancien directeur général d'une filiale du groupe Thalès, a indiqué que tous les marchés publics en France étaient corrompus. On en a parlé deux jours, nous dit un auditeur. Puis plus rien, est-ce une consigne gouvernementale ? Non, je ne pense pas que ce soit une consigne gouvernementale. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'autorégulation médiatique. C'est curieux, c'est parce que les journaux, vous voyez, c'est assez simple. Un journal qui cite la déclaration de ce monsieur, son travail normal, ça serait de dire, attendez, c'est important, donc on va aller voir ce monsieur et on va lui dire, ou vous êtes un provocateur, c'est-à-dire vous dites n'importe quoi, et c'est grave, ou alors vous êtes quelqu'un de sérieux, ce que vous dites est vrai, et vous avez des preuves. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire que toute la classe politique française est corrompue, enfin que tous les marchés sont pourris par la corruption, sans nous apporter les preuves. Alors donnez-nous les preuves. Donc les gens, les journalistes, quand ils sont dans cette situation, ils se disent que le mieux c'est quand même de ne pas en parler. Quoi. Hein?
Soyons honnêtes, Le Monde en a fait sa une il y a trois jours.
Oui.
Et il est poursuivi d'ailleurs en même temps que M. Josserand par le groupe Thalès.
Ah oui, que le groupe Thalès...
Seront-ils rattrapés ?
Que le groupe Thalès se poursuive, c'est normal. C'est pas le groupe Thalès qui est mis en cause, c'est tous les marchés publics. Alors le groupe Thalès dit peut-être que tout... Moi j'imagine que les patrons du groupe Thalès doivent dire bah, peut-être que tous les marchés publics sont corrompus, mais pourquoi spécialement parler du groupe Thalès ? Nous, on n'est pas corrompus, on est mieux placé que n'importe qui pour le savoir. Je sais pas, c'est probablement ça l'explication.
C'est du groupe Thalès que M. Josserand a été chassé avec...
Ah bon, parce qu'il a été chassé. Ah non, d'accord.
Alors qu'il s'occupait justement de corrompre.
Tant qu'il n'était pas chassé, il trouvait normal qu'il y ait des corrompus, mais le jour où on le fout à la porte, il trouve que ça devient un scandale. C'est bien, ça.
Là, c'est comme bien. Kate Moss, hein, elle peut se sniffer de la cocaïne pendant 15 ans, c'est quand elle est surprise par un photographe de presse que ça devient
un
scandale.
Bon, si on va en parler en disant un mot, cette pauvre fille qui est évidemment une malade, elle sniffe de la coke. Bon, elle ne fait de mal qu'à elle-même, en somme. Tandis qu'il y a des gens qui passent leur temps à faire de la publicité pour la drogue, pour la dépénalisation de la drogue, du cannabis, disent-ils, dont il est démontré absolument de façon indiscutable qu'elle conduit, que l'utilisation des drogues ne fait que provoquer des addictions qui conduisent à des produits de plus en plus forts. Sauf exception, on commence par le cannabis, on finit par toutes les pires saloperies de la terre, y compris le crack. Cela, on ne les poursuit pas. J'ai entendu ce matin encore qu'il y avait un type qui avait ouvert une boutique qui s'appelait Magic Garden, dans laquelle il vendait du matériel pour faire de la culture à domicile. Et cet imbécile, au lieu de dire que c'était pour faire pousser du persil, il a dit que c'était pour faire pousser du cannabis. Alors on lui a pris, on lui a confisqué tout son matériel, on lui a collé 10 000 euros d'amende et tout. Mais c'est des lampistes, ces gens-là. Vous voulez que je vous dise qu'on fasse le recensement de tous les articles de presse dans la presse pourrie, la presse rothschildienne, qui appelle à la dépénalisation du cannabis?
Des élus verts en pagaille, pour commencer.
Et ces mecs qui fument du hash publiquement, qui disent « j'ai fumé du hash, je suis content de l'avoir fait et je recommencerai demain », personne ne les poursuit. Et ensuite, ils vont couper du maïs transgénique. Non, mais quand je vous dis qu'on est dans un pays de cinglés, c'est quand même... J'ai des preuves, moi. Je suis pas comme Monsieur Josserand. Bien, monsieur...
Un auditeur nous dit, hier, Christine O'Krent a précisé qu'elle inviterait toutes les tendances politiques à son émission, à l'exception... Attention.
Ça nous manquait.
Des mouvements politiques racistes. Suivez mon regard. Qu'en pensez-vous?
Moi, je pense qu'il y a des mouvements racistes autorisés en France. La loi a changé, là, pendant la nuit.
Mais oui. Moi, je suis pour, absolument. Qui est raciste dans ce pays? Et puis, qui est raciste? Quel est le mouvement politique raciste? Moi, je connais... je connais des gens, par exemple, qui disent « Je n'aurais jamais pu imaginer d'épouser un homme qui ne soit pas de mes origines et de ma religion. » C'était une journée... C'est une copine de Catherine... De Christine O'Krent. Je ne sais plus comment elle s'appelait.
Elle a épousé un ministre comme elle, ce qui lui confère une indépendance journalistique fracassante.
Je ne sais plus qui c'est. Elle était mariée avec un journaliste. Enfin, peu importe.
Elle avait des pulls angora.
Eh ben, elle... Ouais.
Des bleus admirables, non?
Le bleu céladon.
Non,
entièrement
le bleu lentille.
C'est bleu les lentilles?
Certaines. Et puis, puisqu'on est dans la télévision, pour la nouvelle série des Rois Maudits, la réalisatrice Josée Dayan a prétendu qu'elle réécrivait l'histoire de façon romanesque. Peut-on dire que Josée Dayan est révisionniste sur cette période de l'histoire, ou bien le révisionnisme ne s'applique-t-il qu'à une seule période?
Oui, on le sait bien d'ailleurs. Cela dit, je vois pas la nécessité de refaire les Rois Maudits. C'était une très très belle série.
Très bien faite,
d'après l'ouvrage
très bien joué.
De notre ami Maurice Druon.
Remarquable série de bouquins. Et en plus, la télévision à l'époque, si vous montrez à quel point ça a évolué, c'était l'époque où on virait les speakerines quand on voyait leurs genoux à l'écran. Et on avait montré, je ne sais plus quel personnage historique, j'ai un trou, excusez-moi, qui se faisait torturer au moyen d'un fer chauffé au rouge, qu'on lui appliquait dans un endroit que la morale m'interdit de préciser plus avant, comme disait l'excellent Pierre Dac.
C'est le roi d'Angleterre qui a été, été trucidé par
le péché. Voilà.
Et puis on nous dit aussi...
Oui, c'est vrai, c'est historique, hein, c'est la Bible.
Oui, parce que le fer à rouge, il ouvre des yeux, je sais même pas de quoi on parle, il ouvre des yeux de 22 cm de diamètre, et alors le pasteur lui dit, c'est historique.
Oui, c'est vrai.
Et il a appelé monsieur l'abbé. C'est pas un abbé, c'est un père. Il faudrait au moins que vous connaissiez vos confrères, si j'ose dire.
On nous dit, revenons au roi de France, il ne faudrait pas qu'un roi de France éventuel se prenne pour François Ier.
Je prie, mais c'est pas grave.
Bon. Oui, vous avez raison, mais je
le prie d'Odé quand même.
Donc revenons, il ne faudrait pas qu'un roi de France éventuel se prie pour François Ier et fit alliance avec la Turquie pour faire obstacle aux Habsbourg, États-Unis.
Vous connaissez la célèbre charade? Mon premier est un poisson, mon deux est un imprutu, mon trois est un roi de France. En choix pommier.
Oh. Et nous de rire.
Mon père, comment allez-vous?
Ça va très très bien.
Comment va Riomont?
Riomont va très bien. Vous savez qu'on a eu la fête de la Sainte Croix avec une prise d'habit d'un chef scout qui nous vient d'Épinal, un jeune chef scout. C'est très émouvant. Et puis il y a eu les vœux religieux du frère François qui a reçu le manteau blanc frappé de la croix potencée rouge. C'était très émouvant devant tout notre groupe scout. C'est une très très belle fête de la Sainte Croix avec toutes les cérémonies. dont les cérémonies au mémorial des scouts morts pour la France, qui sont toujours très belles, éclairées par des torches. Et puis on a fait une procession avec les reliques de la Sainte-Croix. On a des reliques insignes de la Sainte-Croix sur un brancard qu'on avait dans un coffret doré entre la chapelle et la croix glorieuse qui se trouve à l'autre bout sur le promontoire. On a fait une procession très émouvante le soir. Rion va bien, l'église avance, mais vraiment c'est une ruche avec des sculpteurs, avec des tailleurs de pierre, et c'est très émouvant.
On m'avait dit qu'il y avait l'autre jour, je ne sais pas combien d'artistes.
Ah oui, il y avait, il y avait 12 ou 14 personnes qui travaillaient.
Mitrailleux.
Il y avait surtout un tailleur, un sculpteur qui fait un chapiteau. Alors c'est une magnifique fleur de lys avec un autre carique. Il va faire d'autres chapiteaux. Et puis il y a Isabelle Quilton qui a fait le premier tympan, qui a été posé héroïquement par le frère Olivier la nuit à 1h ou 2h du matin avec sa fameuse grue, mais qu'il manie au centimètre près.
Comment ça s'appelle cette grue incroyable déjà ?
Mais c'est une grue normale, je ne sais pas comment on l'appelle. Et puis il a la mécalac, il a une sorte de bulldozer. Il a repris le tympan au bulldozer par-dessous pour le mettre au millimètres près sur les montants. C'est fabuleux. On a l'impression que c'est une grande prestation d'Hollywood, qu'on a refait ça en carton, mais en fait c'est du vrai, c'est une véritable cathédrale qui est en train de se monter. Et puis il y a eu cette messe dans le clocher avec cet autel dirigé vers Jérusalem, très très émouvante, avec un sermon du père Alain. Moi-même je célébrais la messe pour la protection des chantiers, c'était vraiment très 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 beau. Voilà, donc en même temps...
Il faudrait que vous m'expliquiez quand même un truc, mon père, parce que je vais me faire l'avocat du diable, ce qui devant vous n'est pas une position commode. Mais là, vous nous expliquez que vous êtes en train de construire une cathédrale en plein coron. Hein.
Oui, dans les bois, au milieu juste au-dessus de Guévin. Oui.
J'ai vu le trou au début. Oui. C'est vrai que c'est un côté trou d'éal. Mmh. C'était gigantesque. Mmh. Puisqu'on avait organisé un banquet.
Oui, pour les feux de la Saint-Jean.
Pour les feux de la Saint-Jean, je ne sais pas combien de personnes, mais enfin, c'est incroyable, c'est gigantesque. Et on imagine que l'église va être...
Quand vous êtes dans la petite chapelle, et que vous regardez sur le bas, et que vous voyez ce clocher carré, énorme, recouvert de pierre entièrement, mais surtout allumé de nuit, quand vous voyez les vitraux, on voit des soldats de la guerre 14-18, le père de Foucault, vous avez l'impression, vous la voyez pas à la cathédrale, mais quand vous voyez le clocher, vous imaginez ce que ça va être après, parce que le deuxième clocher sera encore beaucoup plus haut. Donc on est en pleine ascension spirituelle, parce que il ne s'agit pas, évidemment, de parler uniquement du matériel, ça sera la maison du bon Dieu, ça sera la basilique des scouts, c'est vraiment, on donne le sens du sacré à ses enfants, et c'est un chantier école, c'est-à-dire que nos enfants travaillent sur ce chantier.
Mais alors, oui, mais c'est un truc, ça va coûter une fortune.
Oui.
Vous allez, alors, on est dans un pays en pleine déchristianisation, où il y a des églises désaffectées partout, vous construisez une église, et pas une petite,
en
briques ou en acier, mais en pierre de taille, et puis là-dessus, vous me dites, catapostrophe, comme il faut qu'on refasse entièrement la sécurité du bâtiment, je ne sais quoi.
Plus on monte spirituellement, plus le diable est mécontent, et il y a une sorte de rage diabolique, et ça arrive, vous le savez, quand je parle ici, ça arrive 3 ou 4 fois dans l'année, une sorte de coup de butoir du diable, et alors on est pris à la gorge pour la sécurité, pour l'électricité. Donc il nous faut 12 000 euros, on a une dette de 12 000 euros, faut payer maintenant, parce que si les travaux s'arrêtent, ça veut dire fermeture du bâtiment, il y a quand même le réfectoire, le laboratoire scout, il y a des ateliers, il y a les salles de communauté, il y a le local des guides, il y a les cuisines, les réserves alimentaires, c'est un bâtiment énorme, conçu entièrement par l'État, puisqu'au moment où nous étions au pinacle dans l'éducation, l'État nous a forcé à faire ce bâtiment pour qu'on puisse prendre plus d'enfants. Donc on était à 100 ou 120 enfants, il a fallu faire ce bâtiment pour en prendre 50 de plus, donc on était à 180 enfants. Donc ce bâtiment était en sécurité, il y a eu des exercices de pompiers, etc. Maintenant tout ça c'est nul, il faut tout refaire. toute l'électricité. Alors, évidemment, tous ceux qui m'écoutent se disent, le père Aguirre, chaque fois qu'il passe à Radio Courtoisie, il vient pour nous demander de l'argent. Mais en même
si
temps...
Si vous veniez pour en distribuer, ça étonnerait autant. Hein.
Mais, on en donne, parce qu'on fait, on fait la charité. Non. Serge, une fois, j'avais besoin d'argent, vous avez vidé vos poches devant moi, j'étais très ému, et ça reste un souvenir extraordinaire. Et j'espère que la prochaine fois que je vous demanderai, vous n'enlèverez pas votre habit entier, vous ne repartirez pas tout nu place France Litz, parce que je sais pas
quoi. De toute façon, j'irai pas loin.
Bon, maintenant, tout est possible.
Oui, pour faire ça, là, avec c'est une des questions d'environnement.
Enfin, bref, vous seriez pauvre comme Job, et je ne le veux pas.
Non, mais c'est vrai que ça a l'air énorme, 12 000 euros, mais je voudrais quand même rappeler, selon ma bonne méthode simplificatrice, que ça représente 120 donateurs de 100 euros. Et 100 euros, c'est... Bon, c'est
alors, je veux dire,
c'est cher, parce que c'est le prix de l'abonnement.
Je veux dire, quand même, il faut être juste, comme dirait l'autre, j'en ai trouvé 3000 à Villepreux dimanche. Il y avait tout le groupe scout de Riomont-Paris qui était là. Il y a eu une grand-messe fantastique. Et les gens ont donné 3000 euros. Donc, il me reste 9000. Oui.
Ah bah alors,
mais je voulais le dire quand même pour montrer que...
Je suis absolument certain qu'avant la fin de cette émission, il y a 90 personnes qui vont...
Évidemment, quand il y a un leg, alors là on avance à toute vitesse. Un leg du vivant d'une personne, c'est formidable, parce que ça nous permet de faire un bond en avant. Mais voilà, Riomont va bien, Riomont va très très bien, on est très heureux.
Oui, mais le leg, attendez, excusez-moi, mais le leg, ça reporte quand même à...
Non, parce qu'on ne fait pas mourir les gens, on ne fait pas des prières pour faire mourir les gens. ce sont des legs du vivant de la personne.
Ah oui, don alors.
Un don, mais ça s'appelle un leg aussi.
Ah bon, je croyais que c'était juste un don.
Non.
Comment on appelle ça, un don annuel? Don de manuel.
Ah ben, on peut faire un leg du vivant de la personne par la fondation des monastères, qui ne prendra que 5% du leg. Et c'est une sorte de filtre, et ça nous permet de pas être pris par l'État qui voilà. Bon.
Donc alors voilà, si 90 personnes téléphonent à Radio Courtoisie, 0140.
Le standard va exploser si on leur donne l'adresse.
Mais non, mais
Serge,
il faut qu'il téléphone pour dire, on va donner de l'argent. Voilà. N'ayez pas peur, mon père.
Il y a aussi peut-être un projet à l'approche de Noël.
Ça, on en parlera.
On parlera
plus tard,
au moment venu.
On a un projet commun.
Enfin, bon.
Moi, je trouve assez remarquable, alors que je vois des églises se transformer en lieux d'habitation, des églises ou des temples d'ailleurs. Oui. Moi, c'est quelque chose qui me heurte profondément. Des lieux sacrés devenir des maisons, des entrepôts, d'avoir dans un pays avec un islam conquérant, avec des mosquées de plus en plus agressives, et de se dire que la chrétienté elle aussi peut avancer, et même si on n'est pas dans le même bateau, on est dans la chrétienté, et continuer le bon combat de la foi. Bravo pour ce que vous faites.
Pour les gens de la région, quand on leur dit qu'on construit une très grande église, ils sont soufflés, parce qu'il y a des églises effectivement vides. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas célébrer la messe dans ces églises, puisque au crime, je célèbre la messe tridentine. Et donc, c'est très très difficile, sauf quelquefois pour des enterrements, pour des messes de requiem, on a quelquefois une autorisation exceptionnelle, parce qu'il y a une grâce du bon Dieu. Mais c'est vrai qu'on espère beaucoup que le nouveau pape, Benoît XVI, va donner une autorisation complète pour la messe tridentine, qu'elle ait droit de citer partout.
Elle a eu droit de citer au JMJ, et il me semble tous les jours au Vatican, ou est-ce que j'ai rêvé?
Au Vatican, non, je ne pense pas.
J'ai mal compris, alors.
Non, c'est pas la messe tridentine, non, c'est la messe de Paul VI, je crois.
En latin.
Oui, c'est la messe de Paul VI. C'est le concile de Trente.
Ouais. Voilà.
Mais à la Saint-Denis, mon père, moi j'ai été à la basilique récemment, c'est consternant. Il y a une déclaration de l'évêque, bien sûr, qui est pour les sans-papiers. Moi je ne suis pas monarchiste, mais l'héritage de la France me tient à cœur, comme tout Français, et je trouve que Saint-Denis, quand même, comme la Seine-Saint-Denis, est devenu un haut lieu de l'africanisation. Mais c'est pas péjoratif, c'est un constat. Ce qui se passe dans la basilique de Saint-Denis, c'est quelque chose de concernant pour la chrétienté, quoi. Alors il faut effectivement reconquérir le terrain.
Voilà, et grâce à la maison de Bourbon, j'ai pu célébrer la messe tridentine dans la basilique Saint-Denis, et grâce aussi au duc de Beaufremont. J'ai eu une opposition violente, parce que on ne voulait pas que les enfants de cœur de Riomont soient habillés avec leurs aubes, et j'ai passé l'interdiction et du prêtre, et donc tous nos enfants de cœur ont été habillés comme il se doit, et nous avons fait une très belle grand-messe pour Louis XVI.
On a l'Afrique,
le roi martyr.
C'est ça. Bon, alors donc...
J'espère que ceux qui m'entendent pourront nous aider à passer ce cap, parce que il faut passer ce cap, c'est tout.
Alors pour l'instant, il faut prendre un stylo, et cette fois, je ne le plaisante plus du encore. Tout, parce que c'est pas excessivement simple non plus, hein, on est obligé de le dire. Donc il faut libeller son chèque à l'ordre de la Fondation des Monastères. Il faut ensuite préciser au dos du chèque... don en faveur de l'Institut Sainte-Croix de Riaumont. Tout le monde y est, auditeur triste. Je répète. Don en faveur, donc au dos du chèque, on précise, don en faveur de l'Institut Sainte-Croix de Riaumont, Ruthière, BP 28, 62 801, Liévin, CEDEX. Et vous envoyez ce chèque. Donc troisième ligne, l'adresse pour envoyer le chèque, c'est la Fondation des Monastères, bon donc comme l'ordre, 83 85 rue Dutot, D-U-T-O-T, 75 015 Paris. Et je précise que naturellement vous aurez un reçu pour une déduction fiscale assez importante. Hein, j'entre pas dans les détails, mais...
Alors c'est peut-être un peu compliqué, en raccourci... Vous m'écoutez maintenant, vous faites votre chèque à Association Notre-Dame de Riaumont, sans passer par la Fondation des Monastères, qui c'est un peu compliqué, et ça remettra le don directement à Association Notre-Dame de Riaumont, Village d'Enfants de Riaumont, BP 28, 62 801, Liévin, CEDEX.
Alors,
on espère.
Il connaît son adresse maintenant. Après 2 ans d'efforts, ça y est, bravo.
Donc, moi, je voudrais chanter Victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. C'est vraiment, Victoria est à côté. Elle a un nom magnifique parce que elle inspire la victoire. Et donc, elle aura peut-être pas le prix d'Odé, mais elle mériterait de l'avoir. Vous avez déjà fait des déclamations, vous avez déjà fait des choses formidables. Donc, j'en suis sûr.
Avec un très beau texte, avec des très beaux textes
voilà,
de Marivaux.
Voilà.
C'est bon, passe encore. Allez, glisse.
Bon, merci. Il y a des questions, mon père ?
Non, pour le moment, il n'y en a pas.
Merci, mon père. Vous reviendrez de toute façon, puis en...
À l'approche de Noël ?
Oui, oui. Mais on fera quelque chose. Oui. Les choses en grand. Et je vais vous demander de laisser la place à Daniel Raffard de Brienne, à qui je ne donne pas la parole tout de suite, mais je ne vais pas manquer de le faire dans peu d'instants, après avoir présenté mes excuses aux auditeurs pour avoir utilisé le mot addiction, qui me fait fort justement remarquer un auditeur n'est pas français. Ce mot est anglais. Addiction signifie attachement, penchant, inclination. En français, les mots existent accoutumance, dépendance,
assuétude.
Vice, assuétude. Le verbe est s'adonner. Donc, adonnez-vous, ne vous adonnez pas à la drogue, par exemple. Et oui, c'est vrai, j'aurais dû éviter ça. Bon, et ben alors, je me punirai ce soir, je me fouetterai moi-même. Voilà. Radio Courtoisie. Oh. Non, j'ai commencé à le lire, mais c'est facile de se moquer des gens quand on n'est pas au micro. Hein. Radio Courtoisie remet le prix d'Odé au musée Carnavalet. Voilà. Je nous dis un auditeur, je ne sais pas pourquoi il dit ça.
Encore une brève, Serge.
Oui.
Un message d'Anne Brassier.
Oui.
La Normandie nous écoute en modulation de fréquence depuis longtemps, donc elle nous écoute nombreuses, et je pense qu'elle nous retrouvera... nombreuses, le 2 octobre, le dimanche 2 octobre, à Peine de Pie, au manoir de Blosseville, c'est dans le Calvados, entre Honfleur et Deauville, sur la, j'espère que vous avez toujours papier-crayon à la main, chers éditeurs tristes, sur la départementale 513.
Donc, la meilleure.
Voilà, c'est la troisième édition de Lire sous les pommiers, donc une manifestation organisée par notre amie Anne Brassier, avec notamment Charles, Jérôme Bourbon, Serge de Becquet, tiens, Jean Labir. Voilà, Dominique Vénère, voilà, Philippe Conrad, Jean Doxois, Philippe Maxence, Emmanuel Ratier et bien d'autres. Alors, c'est entrée libre de 11 à 18 heures, pique-nique tiré du sac. Et alors, j'ai eu l'honneur et l'avantage de recevoir un coup de fil d'Anne qui fait dire donc à toutes les Normandes et à tous les Normands que peu importe la pluie, il y a un grand local, une grande serre couverte, donc ça posera pas de problème. Et elle veut qu'on donne un numéro de téléphone pour le covoiturage. Donc les gens qui que ce soit de Paris, du Havre, de Rouen ou de Caen, qui veulent bien transporter quelqu'un, appelez le numéro que je vais donner pour qu'on vous donne, on vous mette en contact avec des piétons. 06 10 75 06 18 75 18 61, je répète, 06 10 75 18 61, pour le covoiturage jusqu'à peine depuis dimanche 2 octobre.
Quand il parle de mettre votre voiture en contact avec les piétons, bien entendu, ça vous donne pas le droit de les écraser.
Et François Algou nous signale qu'il sera là-bas et qu'il aura l'honneur, François Algou, de présenter notamment les deux tomes de Actualité et présence de Charles Maurras.
Ouais, formidable bouquin, donc il faut qu'on parle un jour. Je lui ai demandé de venir parce que c'est vraiment quelque chose de remarquable. Je fais un travail sur Maurras qui est splendide. C'est quelqu'un de précieux, François Loup. Voilà. Avez-vous, nous demande un auditeur, des pressions subies par la petite fille de Maurice Papon? Oui, l'histoire est extraordinaire. Elle me raconte dans le Libre Journal qui va paraître la semaine prochaine. Elle a été embauchée par Mekachera, ministre des anciens combattants. Vous savez, le ministère des anciens combattants, c'est ce ministère qui applique une loi dont le nom m'échappe pour l'instant, mais qui est une loi mathématique qui veut que moins un ministère a de personnes concernées, plus il a de fonctionnaires pour s'en occuper. Et donc Mekachera avait fait engager une jeune fonctionnaire, et un journaliste du Parisien est venu pour faire une interview de Mekachera, et Mekachera lui a dit « Tiens, je vous présente ma collaboratrice, conseillère technique, qui est la petite fille de Maurice Papon. » Le type, il a fait un écho dans le Parisien. Immédiatement, les associations de déportés ont dit « Mais comment ? C'est une provocation intolérable !» La petite fille de Maurice Papon, qui s'appelle même pas Papon d'ailleurs, immédiatement, Mekachera a dit « Eh ben, je la vire. » Voilà. Et il l'a convoqué, il lui a dit « Vous dégagez. » Vraiment... Alors, il faut savoir, j'espère qu'elle a un enfant qui aura le droit de travailler, parce que si Papon, ses descendants, ses petits-enfants arrière, petits-enfants arrière, 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 petits-enfants sont interdits dit de Berufsverboten, comme disaient les gauchistes il y a quelques années, on n'est pas sorti de l'auberge, parce qu'il va falloir leur filer le RMI en plus, donc ça va encore nous coûter du fric. Mal foutu, cette histoire. Enfin, vraiment, ces politiciens, c'est une racaille invraisemblable. Ce sont des salopards, des pourris. Mais la corruption morale de ces gens-là. Comment un type peut-il... Moi, je serais ministre. Un type vient me dire, vous savez que vous avez la petite fille de Maurice Papon, ou d'ailleurs de Maurice Thorez. Vous pouvez pas la garder. Je dirais, mais vous allez vous faire dorer, espèce de délateur de bas étage. C'est lui que je virerais.
Les pères ont mangé des raisins verts et les petits-enfants ont eu les dents cassées à coups de marteau.
Et des déportés en plus, des associations de déportés qui font ça. C'est-à-dire des gens qui ont été eux-mêmes victimes de la vindicte, de l'opprobre, de l'exclusion. Ça me dégoûte, vous ne pouvez pas savoir. Je me demande si je ne vais pas me mettre en colère finalement. Monsieur Pérez, comment allez-vous ?
Je vais très bien, je vous remercie.
Christian Pérez, il est le fondateur ou co-fondateur ?
Co-fondateur, c'est déjà très bien.
Secrétaire général.
Président. J'interromps une seconde. Goffman, c'est pour vous. Auditeur triste, pourquoi ne dites-vous pas à plus tant que vous y êtes ?
C'est très moderne. Hein.
A plus. Oui, alors vous avez créé réuni un mouvement.
Oui, qui s'appelle. J'ai peine à en parler avec ce que je viens d'entendre sur les politiciens, mais.
Vous n'êtes pas politicien, d'abord.
Non, loin de là.
Je crois que la première fois que je vous ai invité, vous m'avez dit, de toute façon, on présentera jamais de candidat. C'est vrai?
Mais je vais m'en expliquer.
Alors, donc, si vous ne présentez pas de candidat, vous êtes mes amis. Si vous présentez des candidats, je vous reçois courtoisement, mais avec moins de sympathie quand même, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de candidats pour faire un travail qui... Enfin, allez-y,
c'est très vrai. D'abord, je suis très très honoré d'être reçu par des monarchistes en tant que populiste. Ça fait vraiment un grand plaisir, et si gentiment. Effectivement, je suis venu ce soir aux côtés du pasteur Blanchard pour présenter l'association caritative que nous venons de créer, et qu'il dirigera d'ailleurs en totale autonomie. Cette association, comme le Parti populiste, fonctionnera selon les mêmes principes, à savoir la complémentarité et sans agression envers les tendances politiques du camp national. Alors, pour me faire bien comprendre, je rappelle les objectifs du Parti populiste et on va parler d'élections. Notre principe est de rassembler, de réactiver tous les cadres, les militants qui se sont mis en retrait du combat national et parce qu'ils étaient déçus de tout ce qui a pu découler notamment de la scission de 98. Mais nous sommes clairement un mouvement politique. Nous avons une stratégie électorale et elle est d'une simplicité extraordinaire. Elle variera suivant les types de scrutins. En clair, quand il y aura un scrutin avec une candidature unique, par exemple législatives ou cantonales, nous aurons soin de ne pas créer de candidatures de division qui puissent s'opposer aux autres tendances du camp national. L'exemple à éviter par définition est celui de la cantonale partielle qui s'est déroulée à Nice il y a quelques mois, fin d'année dernière, où on a vu s'affronter un candidat du Front National, un candidat du MNR et un candidat du Bloc identitaire. Nous aurons, nous, nos élections de prédilection, à savoir les élections à scrutin de liste, je pense aux municipales, aux régionales et aux européennes, mais toujours dans la recherche de listes communes avec nos amis du camp national. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le camp national est quand même en difficulté, mais à des degrés divers, bien évidemment. Nous sommes plutôt, je dirais, en phase ascendante. Et au moment des élections municipales, nous serons un peu incontournables. Et il nous sera facile à ce moment-là de proposer de tendre la main à nos amis du camp national. Il en ira de même pour l'association caritative du pasteur Blanchard, qui va fonctionner en complémentarité avec Fraternité française du Front National et avec Solidarité des Français, qui accomplit un travail essentiel en servant des soupes au sans domicile fixe parisien. Nous n'irons pas, si j'ose dire, marcher sur leur plate-bande. Nous allons investir un autre domaine.
Pas les pieds dans le plat, si on peut dire.
Absolument. Nous allons investir un autre domaine du social, et le pasteur tout à l'heure va développer cette stratégie. Avant que de lui laisser la parole, je voudrais quand même mentionner notre université de rentrée qui va se dérouler dans 3 jours, les samedis 1er et dimanche 2 octobre, en Saône-et-Loire, à côté de Tournu, sur le thème de nouveaux repères pour la reconstruction du camp national. Nous aurons de nombreux intervenants. Il y aura plusieurs anciens cadres dirigeants anciens du Front National et du MNR, et également une conférence intéressante sur la Turquie qui sera faite par Guillaume Fay. Il est encore possible pour les auditeurs de s'inscrire, bien sûr, mais le délai très court maintenant interdit de le faire par courrier. Je leur demande donc de prendre papier crayon, comme on disait tout à l'heure, à l'adresse suivante, à l'adresse mail, courriel plus exactement, info@parti-populiste.com ou par téléphone au 06 11 22 36 84. Je vais répéter. Donc adresse courriel info@parti-populiste.com ou par téléphone au 06 11 22 36 84. J'en profite pour rappeler la boîte postale du Parti Populiste, qui est la boîte postale 145 92 406 Courbevoie-Cedex. Et également l'adresse du site internet, pendant que j'y suis, www.parti-populiste.com, tout en sachant que ce site internet va être considérablement modifié dans les semaines à venir. Puisque on parle du camp national, je voudrais faire une petite remarque, peut-être même un peu longue, en ce qui concerne un événement qui s'est déroulé il y a une quinzaine de jours, le dimanche 11 septembre, puisque le président du MPF, Philippe de Villiers, a annoncé la rupture de son alliance avec l'UMP. Il a également annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle, où il entend, semble-t-il, rassembler les souverainistes, ce qui est bien normal puisqu'il est leur patron, mais également les nationaux. Alors, afin de mieux évaluer les contenus de cette rupture avec l'UMP et de mieux évaluer le sens de la candidature de Philippe de Villiers, il nous paraît indispensable de lever tout équivoque en lui posant 13 questions à nos yeux fondamentales. Je précise que nous ne prenons pas en traître. Ces questions lui ont été envoyées et par courriel et par courrier nominatif à son adresse au siège du MPF. Philippe de Villiers est la première personnalité politique qui prétend franchir le Rubicon et multiplie les signes de rapprochement avec l'opposition nationale. Nous souhaitons donc essayer de discerner ce qui ne pourrait n'être qu'une OPA de plus de ce qui pourrait peut-être devenir un espoir de renouveau. Nous lui demandons donc de bien vouloir jouer carte sur table avant que d'aller plus loin. Voici donc ces 13 questions. Je ne vais pas les lire d'une manière mécanique, mais simplement en donner le sens. Elles concernent les élections présidentielles, législatives et le domaine politique actuel. En ce qui concerne l'élection présidentielle, Monsieur de Villiers, si vous n'êtes pas présent au second tour, appellerez-vous à voter pour le candidat de l'UMP, comme vous l'avez fait précédemment, Chirac, Sarkozy, De Villepin, même si celui-ci a été un actif militant du oui à la Constitution européenne? Deuxième question, si d'aventure Jean-Marie Le Pen est à nouveau présent au second tour, accepterez-vous de lui apporter votre soutien ? En ce qui concerne les élections législatives, êtes-vous favorable à des candidatures uniques de la droite nationale et dans cette perspective, seriez-vous l'initiateur d'une réunion qui puisse permettre de réunir les dirigeants de ces composantes ? En ce qui concerne les élections législatives et également les cantonales, le MPF refusera-t-il de soutenir les candidats de l'UMP qui ont activement prôné le oui au dernier référendum ? En cas d'une candidature nationale divisée, soutiendra-t-il au second tour les candidats du Front National restés en lice ou tout autre candidat national, bien évidemment ? En ce qui concerne le contexte immédiat, est-ce que la rupture avec l'UMP, qui nous a été donc annoncée le 11 septembre, va se concrétiser par des votes différents dans toutes les assemblées, qu'elles soient européennes, nationales ou régionales, où des élus du MPF sont présents ? Est-ce que Philippe de Villiers entend se séparer au sein de sa majorité au Conseil général de Vendée des élus de l'UMP qui ont appelé à voter oui à la Constitution européenne, ce qui pose encore un autre problème. Est-ce que les membres du MPF élus dans des majorités ou des intergroupes au sein des assemblées régionales, départementales ou communales vont être invités par lui à rompre leurs alliances avec l'UMP, à démissionner de leurs éventuelles délégations pour former leur propre groupe ou se rapprocher des élus nationaux existants. Enfin, est-il prêt à refuser et à dénoncer tout chantage et toute pression politique que lui-même ou ses amis subiraient dans le cadre des activités sportives et culturelles qu'ils ont créées, telles que le Vendée Globe, le Puy du Fou ou Radio Alouette ? Serait-il partisan, par exemple, d'abroger les lois liberticides dont certaines sont à l'origine des procès qui lui sont intentés par le MRAP, la LICRA et SOS Racisme ? Lorsque sera prochainement réactivé le processus de négociation d'entrée avec la Turquie, donc le 3 octobre, dans quelques jours maintenant, sera-t-il disposé à des initiatives communes avec les autres composantes de l'opposition nationale ? Et enfin, la dernière question, il a été secrétaire d'État en 86 et 87 dans le gouvernement Chirac de la première cohabitation. À ce titre, forcément solidaire des lois votées à son initiative, parmi elles la suppression de la proportionnelle et la réforme du code de la nationalité, considère-t-il désormais qu'il convient d'abroger ces textes et de rétablir la proportionnelle et la primauté du droit du sang ? Voilà les questions que nous souhaitions lui poser.
Ce sont des questions intéressantes. Je pense qu'il devrait y répondre, d'autant que c'est un homme qui manque pas de courage, puisque je le rappelle même à chaque fois, il a été le seul fonctionnaire de haut grade qui a eu le courage de démissionner pour ne pas servir le pouvoir socialiste quand Mitterrand a été élu. Or, rien que ça, ça mérite un coup de chapeau.
Ah, mais tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il est nécessaire de...
Et alors, je vais être obligé de vous demander, monsieur le pasteur, de faire très très court.
D'accord.
Parce que...
J'ai dévoré du temps.
Il vous a bouffé la moitié de votre temps.
Vous vous rappelez, il y a 10 ans, on avait lancé les soupes à Saint-Lazare. Ça avait été un scoop. Vous étiez présent, Serge. Je vous disais, allez voir les journalistes. Vous ne voulez pas y aller. Vous savez que depuis, ça fait Florès, puisque le Bloc identitaire, l'Action française, et même De Villiers se met à faire des soupes. Donc nous avons créé une association qui s'appelle Action Sociale Populaire et qui a pour slogan Espoir pour les nôtres. Et je le fais dans le cadre du Parti Populiste que j'ai rejoint, le seul qui à mes yeux, au-delà des logiques électoralistes ou de parti, a un réel intérêt pour les plus démunis de nos compatriotes. Merci à Christian Pérez, notre président, qui m'a accueilli. Merci à vous, Serge, à l'époque, parce que l'entraide nationale a existé grâce à vous. Vous vous souvenez, j'avais perdu. Reçu d'argent, je passais régulièrement.
Et à ma femme, quand même.
Et à votre épouse aussi, oui.
Collaborer.
Enfin, moi, je reste aussi fidèle à mes amitiés. J'ai des bonnes relations avec Madame Jeannie Le Pen, le docteur Wolf et son épouse, qui sont des gens du Front National. Je n'ai pas quitté le Front National pour rejoindre le Parti Populiste pour des raisons électoralistes, mais pour travailler sur le terrain. Alors, comment allons-nous mettre les choses en place ? Nous allons travailler avec un élu de la région parisienne, fortement enracinée dans sa commune. Christian Pérez et moi-même l'avons rencontré récemment. Pour l'instant, il souhaite garder l'anonymat. Notre objectif, venir en aide au-delà des clivages des partis à des patriotes défavorisés vivant dans un contexte social d'une grande précarité. Notre aide ne sera pas financière pour ne pas tomber dans la cistana, mais concrète et matérielle. Refaire par exemple une tapisserie dans un appartement délabré, acheter un congélateur pour une famille en difficulté avec beaucoup d'enfants. Chaque dossier envoyé avec preuve justificative sera étudié par moi qui suis le président de l'association. Je rencontrerai les personnes pour vérifier le bien fondé de leur assertion, parce qu'on peut tomber sur des affabulateurs et des gens qui cherchent à tirer sur la corde et à profiter de l'association. Et un contrat définissant l'aide que nous apporterons sera établi entre eux et nous. Bien sûr, j'entendais monsieur l'abbé, parler de moyens financiers, aider des gens en situation de précarité, donc avec un élu local très enraciné dans sa commune, dans des cités dégradées, ça demande de l'argent. Nous avons besoin de votre aide. Notre association étant caritative, là aussi, vous pourrez défalquer vos dons sur vos impôts, je crois que c'est 66%. Et à cet égard, on a vu aussi Christian Pérez et moi-même, avec ce responsable, cet élu local, de désigner un mandataire financier qui prendra en charge l'échec. Je ferai aussi une chronique régulière de cette action sur le site du Parti Populiste dont Christian Pérez vous a donné tout à l'heure le nom, où vous pouvez aussi envoyer des courriels pour me poser des questions, savoir comment les choses vont se mettre en place. Et vous pouvez le faire aussi par courrier, donc je vous donne l'adresse de l'association qui s'appelle Action Sociale Populaire, boîte postale 7 91 201 Atis-Mons CEDEX. Action Sociale Populaire, boîte postale 7 91 201 Atis-Mons CEDEX. Et le slogan de l'association, Serge, c'est Espoir pour les nôtres.
Très bien, mais je vous remercie d'avoir fait court et précis. Vous reviendrez nous donner la suite de nous raconter la suite des événements et nous donner des exemples concrets de votre action, parce que je trouve ça intéressant.
Ben on vous appellera sur le terrain.
Quand
vous...
des peintures d'un appartement, il faudra qu'on en parle d'ailleurs.
Oui. Ah. Écoutez, vous enverrez un dossier, on l'étudiera sérieusement.
Voilà, c'est gentil.
Merci Serge, et salue bien votre épouse. Hein.
Un auditeur nous envoie un message. Philippe de Villiers jouera carte sur table. Il répondra oui à toutes vos questions, mais il trichera et mentira comme d'habitude. C'est un auditeur désabusé.
Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais je trouve que vraiment... Je ne connais pas de Villiers, je ne l'ai jamais rencontré, mais je ne trouve pas qu'il a la tête d'un homme qui ne pense qu'à tricher et à mentir. Dans le personnel politique actuel, il est quand même un des plus sympathiques, enfin un des plus... Moi, j'aurais tendance à croire qu'il veut vraiment faire quelque chose, savoir s'il pourra, c'est une autre paire de manches. Mais il donne l'impression d'avoir vraiment envie de faire quelque chose. Et après tout, pourquoi pas? Il a le droit d'exister comme d'autres. Disons, c'est pas le premier à combattre. Voilà.
Moi, je suis pour la réunion des forces nationales.
Tous derrière Le Pen.
Est-ce que je peux interjeter entre deux longues une brève pour le Libre Journal?
Parce que je voudrais donner la parole à Daniel.
Voilà, et donc je sais que je serai écrasé, que je disparaîtrai ensuite avec ma petite promotion du Libre Journal. Le numéro 358 vient de paraître et on a notamment le retour de notre écologiste Claude Timmermans qui nous explique pour ce qui est de la grippe aviaire dont il y a beaucoup question en ce moment. Chirac et Juppé ont perdu 10 ans, il est trop tard. Marie-Claude Monchaud règle son compte à Azouz Begag. Ministre porno ministre recommandé par l'éducation nationale, chronique d'une décadence danse par Serge de Becquet. Tiens, c'est pas très souvent qu'on vous voit à la une. Et en ce qui me concerne, tiens, je me suis encore jamais cité, mais là je suis obligé de le faire parce que je raconte ce qui se passe au Front National grâce à Libération. Alors, c'est comme toujours, ce numéro 358, si on le veut en spécimen, 5 euros ou un carnet de timbre. Si on a enfin compris qu'il faut s'abonner, c'est 110 euros à l'ordre de SDB, 4 places France List, 75-010, Paris.
Je suis étonné que vous n'ayez pas parlé de l'histoire banania qui rigole comme ça.
Je suis un âne, oui, mais aussi vous me mettez la pression en me disant dépêchez-vous avec des gestes.
Pour pouvoir vous engueuler.
Des associations afro, on fait la une avec « il n'y a plus bon banania ». Parce qu'il y a des associations africaines, afro, qui se plaignent et qui réclament des subventions pour pouvoir se plaindre plus fort de ce que leur image est dégradée. Et à peine on a imprimé ce numéro avec Banania, Pennsylvania, il y a plus bon, que à la une de métro hier, c'est il y a bon banane. C'est-à-dire que Laura Flessel, Anelka, vous savez, le très populaire footballeur et très aimé des Parisiens en particulier, et d'autres Antillais vont faire pour 9 millions d'euros la promotion de la banane, et ils seront partout avec une banane à la main. No comments. Je crois que ça nous coûterait trop cher si je me risquais à commenter cette nouvelle. Mais enfin, il y a bon banane.
Ça me fait penser à cet épisode de je ne sais plus quel film où le gars brandit une banane et le type qui est en face crie « Attention, il y a une banane !» Voilà. Daniel Raffard de Brienne, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, maintenant, on va terminer plus sérieusement, parce que vous êtes un homme...
Pourquoi ?
Bon, on peut continuer à dire des bêtises, si vous n'avez pas d'inconvénient.
Ben, pas du tout.
Alors, non, on va pas dire de bêtises, parce qu'on va parler d'un sujet grave, qui est la désinformation en général. Et vous avez consacré une petite brochure, un opuscule, fort joli d'ailleurs, fort joliment édité. Et ça, c'est on sent la patte de quelqu'un que j'aime bien et qui s'appelle Benoît Mancheron dans la réalisation de cet ouvrage qui est c'est très très remarquablement édité. C'est vraiment superbe. Et si j'avais su, je serais allé voir Benoît pour lui demander d'éditer mon propre dictionnaire de la colère qui n'est quand même pas sur le plan éditorial, sur le plan de la qualité d'édition, la plus belle réussite du siècle. Mais on fera mieux la prochaine fois. Alors, donc, ce petit opuscule s'appelle « La désinformation autour de Jésus et Marie oui, ». Et il vient après la désinformation
il y en a d'autres.
Autour du Saint-Suaire. Et ça amorce...
Ça, c'est déjà fait, ça.
C'est ça, mais ça amorce une série.
Oui, je me suis dit qu'il fallait faire des petites choses brèves, mais claires et nettes, et avec les références. Pour le combat actuel, parce qu'on nous ressort toujours les mêmes histoires, il y en a un petit peu assez. C'est pas peine de faire des traités énormes qui existent déjà. Il suffit de trouver les quelques arguments massus et puis les expliquer de manière aussi claire et aussi simple que possible.
Alors, avec votre modestie habituelle, vous m'avez expliqué l'autre jour qu'en fait l'idée n'était pas de vous.
Elle est indirectement de moi. En fait, non, c'est mon ami Volkov qui m'avait dit il faudrait que vous fassiez quelque chose sur le Saint-Suaire. Dans le cadre d'une collection la désinformation qu'il était en train de faire.
Aux éditions du Rocher, oui, qu'il dirigeait.
Oui, alors c'est ça. Alors j'ai rédigé un petit truc. Il m'a dit c'est trop court. J'ai des normes à respecter. Il faudrait que vous fassiez le double. Moi je dis non, je vais pas doubler. J'ai dit ce que j'avais à dire en le moins de mots possible. Je n'en mettrai pas. Alors c'est là que j'ai fondé. Il n'était pas contre d'ailleurs cette petite série là. Donc il a commencé avec le Saint-Suaire, qui continue avec Jésus-Marie, très prochainement l'origine de l'âme, de l'homme, pardon. Ensuite, ça sera les croisades, etc. Et tous ne seront pas de moi d'ailleurs. Je suis.
Alors, je signale, enfin, c'est Goffman qui me fait remarquer que votre livre, La désinformation autour de Jésus-Marie, est la deuxième meilleure vente de l'été à la librairie France Livre 6 rue du Petit Pont, qui nous communique, pas seulement à nous, mais qui communique régulièrement son hit parade. Ça y est, son palmarès des bonnes ventes.
Des best-sellers.
Son hit parade des best-sellers.
Auditeurs tristes, à plus.
Pour les gens addictés à la lecture.
Eh bien, ça va peut-être passer.
Je vais être directement en prison sans passer par la case.
Ça va peut-être passer numéro 1, puisque j'y serai samedi après-midi, je signale ça. Alors, une fois, vous le disiez aussi quand je serai pas là.
Oui, il faudra doubler. Donc, comme ça vous permettra de doubler le docteur Guillaume qui est devant vous avec la royauté primitive.
Voilà.
Et vous entraînerez sans doute
je crois qu'il faut d'ailleurs un petit bouquin sur des informations aussi dans cette série-là.
Ah,
il est en train d'étudier ça.
C'est 6 rue du Petit Pont, alors.
6 rue du Petit Pont.
Métro Saint-Michel, samedi voilà. Après-midi.
Voilà, de 7, quoi.
Venons à ce deuxième titre de la collection qui s'appelle La désinformation autour de Jésus et Marie. On a eu l'impression récemment qu'il y avait une grande désinformation plutôt autour de Jésus et Marie-Madeleine avec l'opération.
Ah oui, bien sûr, mais ça c'est je ne m'en suis pas occupé.
Vinci, mais...
Parce que ça c'est ça veut être un roman, je n'ai pas d'argument.
Mais quels sont les points principaux de désinformation qu'on a?
Moi j'en ai pris 3.
Que vous avez retenu.
J'en ai pris 3 qui me semblent particulièrement importants, il y en a beaucoup d'autres. D'abord en ce qui concerne la naissance du Christ, en ce qui concerne l'origine de la Sainte Vierge et en ce qui concerne la famille nombreuse de la susdite. Alors, en ce qui concerne l'origine de la naissance de Christ, c'est très curieux, cette manie que l'on a actuellement de nier sa naissance à Bethléem. Mais si vous regardez le Figaro du 23 décembre, c'est-à-dire juste avant Noël, c'était avec beaucoup de goût, ils ont fait un article intitulé L'étable tournante de Jésus. Alors l'étable, elle, apostrophe, étable, oui, jeu de mots, c'est tout à fait passionnant.
Ce qui est très amusant, très frappant dans cette affaire, c'est que Les gars qui font ça commencent à vous dire on n'a pas de preuve de l'existence historique du Christ. On ne sait pas s'il a existé. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il n'est pas né à Bethléem et il n'est pas né le 25
alors,
décembre.
Alors, l'existence historique, voilà. on en parle, on la nie moins, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'auteurs païens et juifs du 1er et 2e siècle qui l'ont affirmé. Ils étaient quand même relativement renseignés. En ce qui concerne Bethléem, oui, d'ailleurs, l'article du Figaro commence par cette phrase magnifique. Jésus n'est pas né à Bethléem. Bon. Alors pourquoi il n'est pas né à Bethléem ? Ça, personne n'est capable d'accéder. Il y a un brave ecclésiastique, bien sûr, américain, qui a fait un gros bouquin là-dessus, paraît-il. Je ne me suis pas donné mal de lire, parce que je ne vois pas très bien où j'aurais pu trouver des documents nouveaux sur la question. En fait, il n'est pas né à Bethléem.
L'état civil.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne doit pas être tout à fait à jour. Et le problème, maintenant, ils ne veulent pas que le Christ soit né à Bethléem parce que c'est l'annonciation, c'est la naissance virginale, enfin, ça entraîne toutes sortes de choses. Alors, ils ne veulent pas. Alors, pourquoi ne veulent-ils pas Bethléem? Parce qu'il n'en est question que dans les évangiles. Ouais. Ce sont des légendes tardives nées au milieu des groupes chrétiens. Et ça, même la Nouvelle Catéchèse le dit. C'est invraisemblable. Et Bethléem n'a été soutenu que par Saint Luc et Saint Matthieu, donc négligeable. Alors où est-il né? Eh bien, tout simplement à Nazareth, ville de ses parents. Comment sait-on que c'est la ville de ses parents, Nazareth? Eh bien, c'est parce que Saint Luc et Saint Matthieu le disent.
c'est magnifique.
Mais c'est exactement ça.
Ouais.
Alors, pour ça, j'ai fait un petit truc qui est bref. Mais un petit peu cinglant, quoi, pour mettre ces choses-là un petit peu honnêtes. Oui, alors, on s'amuse sur la date de naissance, on s'amuse sur le bon Quirinius, combien a-t-il fait de recensement, etc. Enfin, j'explique un petit peu tout ça. Alors, l'origine de la Sainte Vierge, une pauvresse, d'après Pierre Vivante, à peu près, de ceux qui ne font pas les malins, j'aime beaucoup cette expression fort distinguée. Et puis,
c'est dans Pierre Vivante, ça.
Oui.
Ceux qui ne font pas les malins.
Oui. Elle est et puis.
Elle était pas méchante.
Une espèce d'ouvrière. Monsieur Duquesne qui fait beaucoup l'argent avec.
C'est pas notre ami Ogui, monsieur Duquesne, je précise.
Ah non, c'est Jacques Duquesne, journaliste à la Croix, catholique, qui a fait 400 000 exemplaires pour dire que le Christ n'était sûrement pas le Fils de Dieu, et qui a fait à peu près autant d'exemplaires, j'imagine maintenant, pour nous expliquer que la Sainte Vierge, une petite ouvrière de Nazareth, a eu beaucoup d'enfants, l'aîné étant Jésus, et puis beaucoup d'autres dont on parle dans l'Évangile, les frères et les sœurs.
Quel maghrébin qui appelle tous les gens de son milieu mon frère mais et
écoutez,
sa mère.
C'est exactement ce que je dis. D'abord, j'ai examiné toutes ces citations d'Évangile. J'ai trouvé les noms des frères en question et j'ai trouvé leur identité, qui ne sont absolument pas des frères du Christ. Tout ça se trouve dans l'Évangile, il suffit de le lire.
Vous avez combien de frères, vous, mon père? Je me pose la question, frère Arouet. Vous en avez 250, 300? À rien qu'à Riomont, vous en avez 11, 12?
Nous sommes 10.
10, 9 frères, plus. Et votre maman n'est pas trop fatiguée, non, ça va?
Attendez, je parle de la fin de la communauté.
C'est ça,
oui.
Non, mais c'est ce qu'on voulait vous faire dire, ne paniquez pas.
Non, mais c'est vrai que quand les Laotiens sont arrivés, le même mot, frère et cousin, c'est le même mot. Donc, il y avait des Laotiens qui étaient là, ils me disaient, c'était des Hmongs. Ils me disaient, mais c'est mon frère. Alors, on lui disait, mais non, c'est ton cousin. Mais sinon, c'est mon frère, parce que les cousins, on les appelle frères. C'est exactement le même problème pour le Christ, c'est qu'on fait passer ses cousins pour des frères.
Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous savez que le Christ n'est pas né à Bethléem, mais au Laos.
Oui, à chaque Noël, il renaît quelque part, de toute façon.
Alors oui, d'ailleurs, vous savez, vous parlez des langues asiatiques, mais l'hébreu, le grec, le latin et le français applique le mot frère à toutes sortes de gens, de proches, de collègues, dans les monastères, c'est vrai, mais dans les loges maçonniques aussi.
Vous vous rendez compte, le grand vénérable de la Grande Loge de France ou du Grand Orne, un nombre de... Ça pauvre merde.
Laissez-moi témoigner, moi, l'athée. J'ai entendu parler de nos frères musulmans dans une messe catholique traditionnelle.
Ouais. Ben voilà.
Et quand le prédicateur mange en chair, qui dit « mes bien chers frères », il ne s'imagine pas que tous les assistants sont les enfants de sa mère.
C'est surtout pour l'héritage que
c'est tout à fait partagé. C'est vraiment un très mauvais procès qui est fait là.
C'est totalement ridicule.
Bah c'est pour toujours la même chose, démontrer que le Christ finalement c'est qu'un petit bonhomme parmi les autres qui s'est cru à un moment donné investi d'une mission.
Et qui c'est comme Shakespeare qui a jamais existé, c'était un type qui s'appelait Shakespeare.
Ah oui, c'est ça. Oui, je sais plus qui disait ça, mais c'est exact. Oui, il y a un certain William Shakespeare qui vivait en même temps que Shakespeare. Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, alors, ce sont ces petites choses-là que j'ai relevées.
Alors, je l'ai dit, ce petit livre est sous la, quant à la forme, un petit bijou. C'est vrai, c'est très joli papier, papier ivoire, très joliment imprimé, enfin comme ce que fait toujours Mancheron, qui a beaucoup de goût. Et puis, le contenu est de la même farine, c'est-à-dire c'est à la fois très bien écrit, comme ce qu'écrit toujours Daniel, mais c'est aussi, vous avez eu un exemple tout à l'heure de cette espèce d'humour tranquille, d'humour ch'timi un peu comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Vous n'aimez pas trop qu'on dise ch'timi?
Ben, je ne suis pas ch'timi.
Vous n'êtes pas ch'timi.
Je suis méridional, moi. Je suis de Saint-Quentin dans l'Aine.
C'est ça.
100 kilomètres au-dessous de
le sud du Nord. Ouais.
Mais je trouve que c'est toujours concis et c'est un petit peu comme des petites armes de guerre pour les jeunes, parce qu'il se met à la portée des adolescents, des jeunes adultes. Et c'est très synthétique. Et pour justement répondre à un certain nombre de questions, les jeunes qui ont ça, ils savent faire un exposé très très simple après en classe.
Et en même temps, c'est très juridique. Dit par exemple sur la naissance du Christ à Bethléem, vous apportez des arguments qui sont tirés de travaux très très sérieux, comme les travaux de Denis Petit, mais ça c'est une chose, mais comme les travaux d'Arthur Lott, qui, écrivez-vous, le démontre au cours de longs développements solidement documentés à propos de Quirinius. Quirinius a été deux fois gouverneur de Syrie, la première fois à l'époque de la naissance du Christ, en l'an 750, depuis la fondation de Rome.
Et, ab urbe condita.
Ab urbe condita. J'allais le dire, mais je me suis retenu, parce que j'ai eu peur de faire un barbarisme.
Ah, mais non, c'était ça.
Est-ce que ce livre est réservé aux clients de la librairie France Livre, ou est-ce qu'il y a une adresse...
On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies.
Oui, je pense qu'il sera en Normandie, sous les pommiers aussi.
Voilà, il sera sous les pommiers. Il sera certainement à la prochaine journée du livre de Radio Courtoisie, mais d'ici là, vous avez le temps de l'acheter ailleurs.
Voilà, et puis également à la grande vente des livres des écrivains catholiques.
Quel est le prochain titre que vous pensez consacrer à la désinformation?
Bon, il y en a un qui va sortir incessamment, c'est autour de l'origine de l'homme. Là, c'est légèrement ironique sur tout l'évolutionnisme. Et le suivant, qui est fait aussi, c'est sur les croisades.
Sur l'évolutionnisme.
Et l'islam en même temps.
Vous êtes évolutionniste vous-même?
Non. 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 Je dis qu'il y a des évolutions, c'est sûr. Mais je ne suis pas évolutionniste, cette évolution n'est pas générale.
Vous n'êtes ni lamarckien, ni darwinien. Ni...
Ah non, pas du tout.
Bon,
non.
Rassurez-moi, parce que j'ai tremblé.
Non, mais écoutez, mais si, vous avez un ravissant roquet dans votre appartement, si je ne m'abuse.
Oui.
Eh bien, il descend d'un canis canis qui est l'ancêtre de tous les chiens depuis le Saint-Bernard.
Mais on ne sait rien, parce que c'est un chien trouvé. On ne sait pas de qui il descend. Il a une certaine attitude aristocratique par moment.
Oui, mais
il peut être
de très bonne famille canine.
Ah oui, ça c'est très possible.
Mais tous les chiens descendent de même chien. Donc il y a une évolution et diriger l'espèce. Seulement je dis, ça n'a jamais fait un chat.
Ce que disait Powell, les roses n'ont pas des têtes de chat.
Qu'il y ait une évolution, c'est sûr, à part des accidents génétiques, c'est évident. Mais donc, que ça permette de changer de famille, d'ordre, etc., c'est impensable.
Oui. Donc vous ne pensez pas que, contrairement aux évidences quand on regarde la télévision, l'homme puisse devenir un singe?
Il y en a qui ne sont pas encore sortis de l'âge simiesque. Enfin.
Donc le prochain, c'est l'évolution... Enfin, pardon, les origines de l'homme.
Après les croisades.
Après les croisades.
Pour montrer d'ailleurs que les croisades nous ont sauvés de l'islam. Sans ça, nous aurions été envahis par les Turcs dès le XIIe siècle.
Ah oui?
Dieu nous en préserve.
Non, on les envahit maintenant au XXIe siècle par les Turcs. Enfin, c'est une autre question.
Eh bien, alors, je vous donne rendez-vous là-bas au pommier, puisqu'on s'y verra.
Voilà, et j'espère qu'il y aura du jus de pomme.
Ah, il y aura du jus de pomme.
Un peu fermenté, si c'est possible.
Voire même des choses un peu plus virulentes et vigoureuses.
C'est le 2 octobre.
Le 2 octobre.
Au manoir de Blosseville, à Peine de Pie.
Et je cherche un convoitureur, parce que moi, je suis pédestre. Pédestre,
hein. Oui.
Alors, je vais vous donner le numéro de...
Voilà, ah, bah non, Anne Brassus, on l'occupe.
Ah bon, très bien. Merci, Daniel, d'être venu. Vous avez des choses à nous dire, Victoria, parce qu'on va recevoir Bernard Anthony en deuxième partie. Vous ne voulez pas...
Monsieur Pérez, vous manquez d'objectivité.
Ah oui, mais il n'est plus là.
Il est parti, alors on ne lui dit pas.
On ne peut pas. Enfin, on pourrait, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Non, mais je m'en vais essayer de retrouver un train qui ne tombe pas en panne comme le dernier.
Voilà. Bonne route. Bon retour.
Merci. Et on continuera la conversation dimanche.
Oui, absolument. Voilà. Et comment ?
Nous devons soutenir le maire d'Emerainville. Seine-et-Marne, vous êtes au courant de ça ?
Non, je ne suis pas...
Oui, qui, via une lettre adressée à ses administrés, les a appelés à se mobiliser contre la politique d'immigration du gouvernement, voire présent du mardi 27 septembre, écrivant-lui pour le féliciter et l'encourager dans sa démarche et son action.
Ça commence à bouger un peu là-dessus. Merci, je rappelle que Daniel Ravard de Brienne signera son livre La désinformation autour de Jésus et Marie et La désinformation autour du Saint-Suaire à France Livre, 6 rue du Petit Pont, samedi 1er octobre, dans l'après-midi.
Et puis une négociation avec la Turquie, l'ambassade, rendez-vous est donné par Bruno Maigret, le MNR, devant l'ambassade de Turquie, le lundi 3 octobre à 17h30, au square à l'angle de la rue d'Ankara et de l'avenue du Général Mangin.
Bernard Anthony, bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci à Serge de Bektech de me recevoir dans son émission avec l'équipe de La Réplique. On m'a demandé si le dictionnaire de La Réplique était toujours en vente, bien sûr que oui, il en est à son 4e retirage, 1000 par 1000. Des étudiants de plus en plus nombreux nous le demandent et on peut se le procurer au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, au prix de 37 €. Ce soir, nous accueillons Cécile Montmirail, que vous connaissez déjà, qui sera une des animatrices de cette émission, en ce sens qu'elle va poser des questions à nos autres invités, et notamment Alain Sanders, que je ne présente pas, du journal Présent, fidèle ami de bien des aventures. Et nous avons aussi, pour la réplique de la griffe, Maître Valrand Saint-Just, qui est demain à la 17e chambre correctionnelle, pas comme Serge et moi en tant qu'accusés, comme nous y sommes quelquefois, et même trop souvent à notre gré, il y est comme l'avocat de toutes les bonnes causes.
Et toujours avec Maître de Saint-Just aussi.
Mais oui, nous ne nous séparons pas beaucoup.
Et vous gagnez vos procès, généralement.
Et nous gagnons généralement nos procès, il faut bien le dire, mais enfin, bon, nous y reviendrons. Ce soir, nous avons une première cible. C'est la riposte, la réplique à toute une campagne qui se développe partout, dans les médias, télévision, radio, dans les revues faussement historiques, sur la décolonisation. C'est la grande entreprise de culpabilisation de notre pays en particulier et de l'Europe en général qui se poursuit. Et nous avons décidé de réagir non seulement par la pensée, mais aussi, comme je le dirai tout à l'heure, dans la rue. Cécile Montmirail, vous avez reçu ou vous-même avez des questions à formuler auxquelles Alain Sanders pourrait peut-être répondre.
Il est vrai, Bernard, que beaucoup de questions se posent parce qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas des fausses informations dans la presse concernant la colonisation. Alors je m'adresse à vous, Alain. Une des choses les plus répandues, on nous dit que le retard de l'Afrique serait dû aux colonisations européennes des 19e et 20e siècles et également à la traite des esclaves qui aurait eu lieu du 16e au 19e siècle. Alors est-ce cela vrai ?
Alors, on peut répondre rapidement. En quelque sorte, on nous dit que l'exploitation coloniale et la ponction d'hommes par l'esclavage, disons-le tout de suite, l'esclavage est une abomination qui a existé de tout temps. Les premières victimes en ont été aussi bien des blancs que des noirs, que des jaunes. Et on se souviendra par exemple de Saint Vincent de Paul, qui lui-même a été galérien et esclave des maghrébins, des barbares.
Est-ce que je peux te couper, Alain, juste 30 secondes, je rassure Clarisse, pour dire une abomination, évidemment, mais ça a été un progrès à un certain moment de l'histoire de l'humanité.
Ça a même été reconnu par Karl Marx.
À partir du moment où on a jugé bon de garder comme esclaves les prisonniers, c'était mieux que de les couper en morceaux. Oui. Parce que le fait que de l'existence de l'esclavage nous a valu quand même Aristote et un certain nombre d'autres grands penseurs, sans cela nous ne les aurions pas eu. Pardonnez cette parenthèse.
Voilà, et il ne faut jamais commettre l'erreur, ce qui est le vice actuel, c'est de juger avec nos opinions et nos émotions d'aujourd'hui des réalités d'hier. Un vrai historien doit se remettre dans le climat d'une époque pour juger d'une époque.
Cela étant dit, on pourrait quand même répondre à la question. Est-ce que l'esclavage et la colonisation sont les causes du retard de l'Afrique?
Alors, je vais d'abord répondre sur l'esclavage. Par exemple, la traite fut largement l'œuvre du Portugal à une époque, si au début. Si donc on suit le raisonnement de ces gens qui nous disent que cette ponction d'hommes a été terrible, le Portugal devrait être le pays aujourd'hui le plus industriellement développé. Ce n'est hélas pas le cas.
Et pour renverser la question, là. Donc, en fait, c'est parce que...
Donc, ça n'est pas vrai. En France, les grands ports du commerce de l'ébène, c'est-à-dire de l'ébène, c'est-à-dire de l'esclavage en France, furent Nantes et Bordeaux. Or, ce n'est pas là historiquement que s'est accomplie notre révolution industrielle. Notre révolution industrielle s'est accomplie dans le nord de la France, grâce aux mines de charbon, dans lesquelles, il est vrai, certains mineurs travaillaient comme des esclaves. Donc, mais c'est une autre question.
Oui, c'est-à-dire que vous nous dites que ceux qui pratiquent cet esclavage ne sont pas bénéficiaires de la traite, d'un point de vue économique, mais est-ce que ceux qui en sont les victimes sont, eux, touchés et désavantagés dans le développement de leur économie ?
Dans le développement de leur économie, je ne crois pas, parce que là, on va parler de la colonisation. Mais je continue mon argumentation sur la révolution industrielle. Les États dits esclavagistes aux États-Unis étaient des États agricoles. Or, ce n'est pas dans ces États-là que s'est développée la révolution industrielle capitaliste et sauvagement capitaliste parfois. C'est dans le Nord, où soi-disant il n'y avait pas d'esclaves, mais où certains ouvriers étaient blancs, irlandais ou autres, travaillaient et trimaient comme des esclaves. Enfin, l'esclavage, les blancs ne pénètrent à l'intérieur de l'Afrique que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce n'est pas eux qui vont chercher à l'intérieur de l'Afrique des esclaves noirs.
Alors qui?
Bonne question.
Serge de Béchet, je voudrais dire à toi.
Je crois qu'il y a un préalable à poser, c'est que il semble acquis une fois pour toutes que les esclaves sont des Africains. Et notamment que les esclaves qui ont travaillé aux Antilles, enfin aux Caraïbes, qui ont été déportés aux Caraïbes et en Amérique, sont des Africains. Et ça, historiquement, c'est un mensonge absolu. Avant, bien avant les esclaves africains, il y a eu des esclaves blancs qui venaient essentiellement d'Irlande et qui étaient des esclaves authentiques, c'est-à-dire que c'était la propriété de leur maître, ils n'avaient aucun droit sur leur propre vie, leurs enfants étaient traités comme du matériau qu'on pouvait vendre, leurs femmes étaient traitées comme ça. Et c'est pas une petite partie.
À une petite différence, c'est qu'ils avaient des contrats d'esclaves pendant 10 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et qu'au bout de ces 10 ans, ils étaient libres.
Pas tous, ils s'en foutent beaucoup. C'est vrai.
Une petite seconde là pour préciser pour nos auditeurs, parce que bon, pour moi, j'apprends quelque chose. Vous voulez dire que les Américains,
les Anglais.
Les Anglais ont pris des Irlandais comme esclaves.
Mais bien sûr, et pas peu. Il y a eu des milliers, des dizaines de milliers d'Irlandais d'Anglais.
À Boston et à Philadelphie, par exemple.
Dans les grandes villes d'Angleterre, notamment les grandes villes industrielles d'Angleterre, au début du 19e siècle, on a pris des décrets royaux qui ordonnait l'arrestation immédiate de tous les enfants vagabonds et de toutes les personnes les prostituées, les petits délinquants, pour leur transportation aux Amériques, où ils étaient vendus comme esclaves.
Dans les 13 colonies anglaises de l'époque.
D'accord. Alors, c'est important à la fois parce que vous nous apportez une information dont je suis sûr peu de gens connaissent, mais d'une part, effectivement, l'Irlande n'est pas un pays sous-développé, et donc l'argument selon lequel le retard de l'Afrique serait dû à cette ponction des esclaves tombe de fait.
La différence avec l'Irlande, entre l'Irlande et l'Afrique, c'est que l'Irlande est une terre extraordinairement ingrate, où a sévi une famine endémique pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Provoquée par les propriétaires anglais.
En Afrique, vous crachez par terre et poussez un arbre, et vous cueillez des bananes. Enfin, c'est évident que l'Afrique est beaucoup plus... Enfin, c'est un truisme de dire que l'Afrique est beaucoup plus fertile et qu'il est beaucoup plus difficile de mourir de faim en Afrique qu'en Irlande.
Alors, on vient de traiter la question...
Le drame irlandais, il vient... L'arriération ou le drame de la culture irlandaise et du développement d'Irlande, il vient du fait que c'était une terre miséreuse et qui était totalement condamnée à mort, en quelque sorte, par l'occupant britannique.
D'accord, on va peut-être se recentrer sur notre sujet.
Oui, je vais donner des chiffres, parce que les gens aiment les chiffres à notre époque. Il y a eu trois sortes de traite d'esclaves. Il y a eu ce qu'on a appelé la traite africaine, c'est-à-dire qu'elle a été pratiquée à l'origine par les Noirs eux-mêmes, puisqu'on parle surtout des Noirs, puisque c'est le sujet à l'heure actuelle. Elle a été pratiquée qui mettait des tribus en esclavage. Et puis à un moment, ces tribus ont jugé qu'il était plus judicieux de vendre ses esclaves, ça leur rapportait plus, à des négriers européens ou arabes. Donc sans la complicité de ces middlemen, de ces négriers africains, au cœur même de régions où les Blancs ne pouvaient pas pénétrer, rien n'aurait été possible. Cette traite est estimée par les spécialistes, je ne vais pas vous abreuver de titres d'ouvrages, si quelqu'un les veut à la fin de l'émission, je donnerai, il y a des livres remarquables sur le sujet, concerne 14 millions de personnes. Ça, c'est la traite africaine. Des Noirs prenant en esclaves des Noirs. Non. Ensuite, il y a la traite arabo-musulmane, qui a été pratiquée par des négriers musulmans et qui commence dès le 7e siècle. On n'est pas dans le commerce triangulaire dont je vais parler, qui est la traite atlantique, si vous voulez. Là, elle commence dès le 7e siècle. Elle sera interrompue, mais en partie seulement, dans les années 1920, grâce à qui ou à cause de qui? Grâce aux colonisateurs.
Et là, ça représente
en partie l'éradiquer. Ça représente 13 siècles au bas mot d'esclavagisme, et ça concerne plus de 17 millions de personnes.
Oui, c'est pas
dont
rien.
On parle jamais. On vous fait visiter Gorée au Sénégal, on vous fait jamais visiter Mombasa ou Zanzibar, d'où sont partis ou arrivés des milliers d'esclaves noirs. Et cet esclavagisme-là, éradiqué en partie dans les années 20, n'est pas totalement éradiqué aujourd'hui. Confère le Soudan, pour ne prendre qu'un exemple.
Il faut ajouter qu'il n'y a pas un seul historien sérieux qui confirme que la fameuse maison des esclaves de Gorée n'ait jamais hébergé un esclave. Donc ça, il faut
qu'il soit parti de Gorée Côte d'Or.
Ça fait partie de la
mouche.
De même que tu parlais tout à l'heure du rôle du Portugal, les plus grands esclavagistes, les plus grands trafiquants d'esclaves portugais s'appelaient les Mendes. Et la branche bordelaise de cette famille Mendes, comme elle vivait à Bordeaux, on l'appelait les Mendes France, puisqu'ils vivaient en France. Et il y a une fameuse histoire qui est tout à fait exemplaire, de l'histoire de Mendes France qui revient des Caraïbes avec un couple d'esclaves qui s'appelle le nègre Pamphile et la nègre je ne sais plus comment. Il pose le pied sur le territoire français, le territoire du royaume, c'était sous Louis XV, et immédiatement des gens vont voir, des ancêtres des organisations d'aujourd'hui vont voir les deux esclaves en leur disant, vous savez que le code noir prévoit l'affranchissement immédiat de tout esclave qui met le pied sur le territoire du royaume. Donc vous n'êtes plus esclave. Et ils s'en vont. Mendes, qui les considérait comme les meilleures têtes de son cheptel, fait à ce moment-là un procès à la couronne pour obtenir la restitution de son bétail. Le procès va durer près de 15 ans. Et au bout de 15 ans, Mendes va être condamné définitivement après des appels, contre-appels, etc. par le Parlement. Et on va lui dire non, le Code noir prévoit que les esclaves ne peuvent pas vivre en France. Voilà.
Alors Alain, vous nous aviez annoncé une troisième vague de...
Une troisième vague, donc la traite africaine, des Noirs prenant en esclaves des Noirs, la traite arabo-musulmane, plus de 17 millions de personnes, du 7e siècle au 20e siècle, on pourrait dire, et au-delà.
Alors, cette troisième...
Plus de 17 millions. Et la troisième vague, c'est ce qu'on a appelé la traite atlantique. Cette traite atlantique, bien sûr, concerne à ce moment-là, à partir de 1450, on va dire de 1450 à 1850, les Hollandais, les Portugais, les Britanniques et les Français, avec ce qu'on a appelé au 17e siècle, notamment, le commerce triangulaire. C'est-à-dire des bateaux qui partent de ports européens avec des marchandises qu'ils échangent en Afrique. Qu'ils échangent à qui en Afrique ? À des Noirs, contre des Noirs faits prisonniers par les tribus dominantes. Donc rien ne peut se faire. C'est très mal, c'est honteux, c'est insupportable, c'est insoutenable, c'est à dénoncer. Aujourd'hui, dans le contexte de l'époque, personne n'y voyait là malice, si on peut dire. Eh bien là, cette traite a concerné, suivant les spécialistes, 10 millions de personnes.
Oui,
voilà les chiffres.
Je crois que là, il faut évoquer l'œuvre du professeur Jacques Hers, qui vient d'ailleurs fréquemment, je pense, sur les antennes de Radio Courtoisie. Pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin dans le sujet, il y a les magnifiques livres sur les négriers en terre d'Islam.
Absolument.
Parce que ce que vous êtes en train de faire là, et qui est une nécessité de réplique et de contre-désinformation, c'est le fait que l'on a voulu imposer une dialectique raciste, une fois de plus, dans cette affaire-là. Il y aurait donc, comme ça, des siècles d'esclavage donc perpétrés par les Blancs contre les Noirs. C'est donc faux, parce que comme l'a dit Alain Sanders, oui, l'esclavage a été le fait de toutes les sociétés, quelles que soient les races.
Absolument.
Et quelles que soient les époques. Le grand air libérateur, ça a été le christianisme. Avec Saint Paul, il n'y a plus ni esclave ni maître. Et là, évidemment, c'était le début du processus de la libération. Il fut un temps, d'ailleurs, où l'on assimilait par une fausse étymologie esclave et ex-slave. On sait très bien que esclave, ça vient de slavos, l'esclave en latin, mais en même temps, les slaves, eux, c'était véritablement en quelque sorte un réservoir donc d'esclaves qui étaient par les mêmes commerçants, les mêmes très proches de ceux dont parlait tout à l'heure Serge, c'était un trafic permanent des zones d'Europe orientale vers l'Espagne du Sud. Donc, c'est la première idée qu'il faut, auditeurs de Radio Courtoisie, dire à vos enfants qui, à l'école, subissent vraiment une désinformation scandaleuse, apprendre partout, phénomène général, et ça n'est pas les Blancs vis-à-vis des Noirs, c'est un phénomène général. Et ceux qui ont apporté au peuple la libération de l'esclavage, il faut bien dire essentiellement, ce sont les peuples christianisés, essentiellement orientaux du Proche-Orient et européens, parce que peu à peu, le processus mettant fin à l'esclavage s'est mis en mouvement.
Il n'en reste pas moins vrai, Bernard, Alain, que la colonisation pose quand même un certain nombre de questions et de questions de fond, même si il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on ne peut pas faire l'économie de ces questions. Parlons par exemple du déracinement. Est-ce que le fait d'être allé, d'avoir conquis ces pays militairement, nous n'avons pas contribué à les déraciner. Or, comme le disait Simone Veil dans son magnifique livre sur l'enracinement, l'enracinement est un des besoins fondamentaux.
Absolument.
De l'âme humaine. Donc, est-ce que là, nous ne pouvons pas nous battre la coulpe ?
On peut, si on veut, sauf que je dirais que de parler d'une colonisation militaire est très exagéré. Dans la mesure où nous avons engagé pour ce faire des troupes minime, très peu de soldats, très peu de gens. Nous arrivions dans des pays où il y avait beaucoup de gens.
Alors comment se fait-il, Alain,
que quelques militaires, accompagnés de quelques missionnaires, accompagnés de quelques administrateurs admirables, accompagnés de quelques colons qui étaient plus ou moins honnêtes, pas toujours, je ne suis pas en train de dire que c'était admirable en tout, venaient souvent comme des libérateurs. Libérateurs contre qui ? Eh bien, c'est les Français qui, par exemple, on parlait des esclaves tout à l'heure, c'est les combats que les Français vont mener contre des esclavagistes, comme Rabat ou Soumoussou, dans ce qu'on a appelé le Soudan français, grosso modo, jadis. Eh bien, quand les populations noires voyaient les troupes françaises qui venaient les libérer de ces gens qui les tenaient à merci, qui les réduisaient en esclavage, dont ils étaient les bêtes de somme, eh bien, ils accueillaient ces troupes françaises non seulement comme des troupes libératrices, mais en même temps, ils s'engageaient bien souvent pour devenir ces fameux tirailleurs sénégalais, pour prendre un terme générique, même s'ils n'étaient pas sénégalais.
Il faut
première remarque, Bernard.
Oui. Oui, il faut ajouter aussi, Salvatrice, il y a un phénomène qu'on a oublié d'évoquer, c'est celui d'anthropophagie. Mes amis.
C'était mon deuxième point.
Pardon, Alain.
Mais je
voulais rappeler cela. Mes amis wallisiens, qui sont des gens merveilleux, dont il y a le souvenir de leur peuple, ce sont des parachutistes que j'ai évoqués ici même, racontent l'histoire de leur peuple. C'est très frais.
Ils se mangeaient les uns les autres.
Il y avait les tribus garde-manger.
Ouais.
Hein, donc, les tribus garde-manger, c'était dans les îles polynésiennes.
En Nouvelle-Calédonie, c'était l'île de Lifou, par exemple, où on allait faire son marché. Alors, on allait chercher des gens d'une autre tribu pour les manger.
Et en Afrique, l'anthropophagie sévissait, et d'ailleurs, elle est loin d'être interrompue, on le sait fort bien. Les témoignages dans le journal Le Monde, qui est le journal officiel de la République, ont abondé sur la pratique de l'anthropophagie encore aujourd'hui au Congo. Ces malheureux pygmées se font manger, donc, comme on le sait, comme on nous le décrit en tout cas. Alors donc, il y a eu aussi, tout simplement, en dehors même du fait que l'esclavage n'était pas phénomène européen, l'anthropophagie était en revanche le phénomène spécifiquement africain.
Et c'est la deuxième partie que je voulais dire. D'abord, c'est pas une conquête militaire proprement dit, puisque il aurait fallu engager des forces très importante. Donc, il y a eu complicité ou accueil des populations indigènes qui se voyaient délivrées de maîtres terribles. Et deuxièmement, Dieu sait si je suis respectueux des traditions, des racines et de l'enracinement, Bernard parle du cannibalisme, on pourrait y ajouter l'excision, les maladies endémiques, les sorciers, les vaudous, les jeteurs de sorts, toutes ces choses-là. Est-ce qu'au nom de l'enracinement et du respect des traditions, il faut faire de la polygamie, de l'anthropophagie, de l'excision, des valeurs à défendre? Et bien souvent, ces peuples-là, à qui on leur dit « vous avez le droit à la différence », bien souvent, ces peuples-là sont demandeurs d'un droit à la ressemblance. Et c'est un crime que de le leur refuser.
Alors, on comprend ce que vous nous dites, Alain, mais il y a quand même quelques faits, et les faits sont là. Ces peuples, ou en tout cas une partie d'entre eux, nous haïssent. Alors pourquoi donc, si nous les avons libérés de tous ces maux, nous haïssent-ils aujourd'hui?
Alors, je ne crois pas que ce soit les peuples eux-mêmes qui nous haïssent, et il n'est que d'aller en Afrique noire. Hein, je prendrai cet exemple. Je ne parle même pas de civilisations intéressantes que j'ai pu connaître, comme l'Indochine française. Mais en Afrique noire, le peuple de la rue ne hait pas la France. Au contraire, puisque il y a un tel appel d'air qu'ils ont envie de venir dans ce qu'ils considèrent toujours comme leur pays, leur protecteur, leur mère patrie. Moi, j'ai entendu au Cameroun des femmes dans la rue, des vendeuses d'allumettes, dire à l'une à l'autre « Alors, ton fils, il est au pays ?» Et elle ne parlait pas du Cameroun, elle parlait de la France. Donc, en revanche, ce qui est vrai, c'est que les élites africaines ou indochinoises, pour prendre des exemples, puisqu'on parlerait de la guerre d'Indochine ou d'Okimine, par exemple, ont été formées dans nos universités, et ceux-là ont appris dans nos universités, de la part de maîtres bien souvent marxisants ou marxistes-léninistes carrément, à haïr tout le patrimoine français. C'est Okimine qui disait, quand je venais à douter de la justesse de notre combat et que j'étais plus optimiste, il me suffisait de lire la presse française pour être rassuré. Donc, il y a une différence entre ces élites qui ont été des étouffoirs de leur peuple, et ces peuples eux-mêmes, qui, loin de haïr la France, sont parfois des gens qui sont attachés à la France de manière très émouvante, dans leur langue, dans leur gentillesse,
plus
dans leur accueil,
eux-mêmes.
Et bien plus que des collégiens. Aller à la sortie d'un collège en Afrique noire et interroger des enfants, interroger des petits gamins de la rue qui vendent n'importe quoi pour faire 4 sous, et vous écouterez le français qu'ils manient et qu'ils parlent, c'est à pleurer d'admiration. Quand vous mettriez les mêmes micros à la sortie de nos collèges et ils parlent ce qu'on pourrait appeler paradoxalement du petit nègre.
Un auditeur nous dit, Alain, qu'on a vu à la télévision des foules entières en Côte d'Ivoire qui scandaient des slogans contre la France. Alors ça, c'est pas de l'amour, ça.
Non, mais il y a aussi le phénomène qu'il y a des politiques françaises, on n'y est plus là-bas. On ne peut pas prétendre y être et n'y être plus. Je crois qu'il y a des anciennes colonies françaises à l'égard desquelles nous n'avons plus aucun ressort politiques. Et c'est vrai que bien souvent, certaines politiques françaises peuvent avoir déclenché chez des peuples qui avaient de l'attachement, voire de l'admiration, un phénomène de rejet.
En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut dire aussi que les gens qu'on a vus protester, enfin hurler contre la France et tout, c'était les voyous du coin qui étaient payés pour ça.
Des foules entières.
Moi, je crois que il y avait des
bandes de voyous.
Ce dont Cécile se fait justement le porte-parole, puis c'est l'art de la réplique. Nous présentons les arguments.
Ah bon, ça n'est pas ses véritables sentiments.
Je crois que les auditeurs ont parfaitement compris cela. Elle est dans son rôle, elle recueille les opinions erronées ou que nous devons en tout cas discuter et principalement réfuter. Mais ceux qui sont contre nous, ce sont ceux que nous laissons venir chez nous et qui reçoivent à l'école et dans les médias une désinformation qui les manipule. Il va de soi que, bon, j'ai été pendant 15 ans député à l'Assemblée paritaire Afrique Caraïbes Pacifique. C'était passionnant. Je pourrais raconter maintes anecdotes. Un jour, l'ambassadeur du Mali me dit, mais quand même, c'est inadmissible que vous puissiez siéger ici, vous, député du Front National, j'ai appris cela. Et je lui dis, mais moi, j'ai appris que vous aviez plusieurs esclaves chez vous et je vais le révéler. Je vais révéler le nombre de vos esclaves et je vais mettre ça sur le tapis. Oh non, 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 c'est rien, je voulais juste discuter. Donc, c'était absolument incroyable parce que nous avions là l'Afrique dans toute sa splendeur, quoi. Hein? Mais je vais tomber dans l'anecdote autrement. En tout cas, oui, Alain.
Oui, un dernier petit point, c'est qu'historiquement, ce qu'on peut appeler grosso modo la droite du 19e siècle n'était pas pour la colonisation parce qu'elle disait ça va nous coûter trop cher. Et ceux qui ont poussé à la roue, et avec des arguments que je vais vous dire, c'est l'école Jules Ferry, c'est la clique Jules Ferry, qui disait, et je cite, il faut apporter à ces civilisations ou à ces races inférieures les lumières avec un grand L. Dans le même temps, c'est un Lyotais, monarchiste, catholique, qui lui a fait du Maroc, vieille civilisation, aussi vieille dynastie que les dynasties françaises, a fait ce pays qui, bonhomme à l'an, continue de vivre et de vivre dans ses traditions et dans la modernité. Voilà la grosse différence. La droite catholique, la droite chrétienne allait là-bas, non pas dans un esprit raciste, puisqu'elle allait là-bas pour évangéliser. C'est donc qu'elle considérait que les gens qui étaient dans ces pays-là étaient leurs égaux, puisqu'ils avaient une âme et qu'ils méritaient et qu'ils devaient recevoir le message du Christ. Oui. La différence, c'est que la gauche colonialiste de l'époque y allait dans l'idée que c'était des races inférieures auxquelles il fallait insuffler l'esprit des Lumières. Ça fait toute la différence.
Oui, alors ça, nous avons une provision de citations. Je suis en train de préparer, je ne sais pas quand est-ce que je produirai, un Jaurès méconnu. Mais de Jaurès, je pourrais citer, ce terme revient sans cesse. Oui, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui le terrorisme intellectuel qui porte sur ce mot tabou de race, c'est absolument incroyable parce qu'en fait aussi bien Blum que Jaurès que Ferry, que Viviani, etc.
Ils n'ont, Jules
que, oui. Ils n'ont de cesse
parlera de Luc tout à l'heure.
Ils n'ont de cesse que de parler de ces races inférieures auxquelles il faut apporter, encore une fois, le progrès, la civilisation, les droits de l'homme, etc.
Mais Jaurès avait de très belles phrases aussi.
Le Front Populaire avait publié un timbre
Pour sauver la race.
Pour sauver la race. Oui. Sauver la race.
Oui. Mais là, nous sommes sur un autre sujet. Non, mais c'est tout à fait vrai.
Alain Bernard, est-ce qu'on peut dire donc en termes de réplique que la colonisation n'est pas une, mais qu'il y a plusieurs sortes de colonisation, une qui pourrait d'un côté être civilisatrice, qui pacifierait les territoires et qui aurait pour but d'élever, en tout cas de permettre aux hommes de ces territoires de vivre dans la paix et de se développer, et de l'autre côté une autre colonisation qui serait idéologique?
Peut-être, mais moi je veux parler de la colonisation française, c'est celle qui m'intéresse.
Oui, mais la parce colonisation que, sans ça, on va pas rentrer la colonisation.
Non, mais, mais la colonisation anglaise, l'indirect rule, etc., c'est autre chose. Mais la colonisation française, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a jamais été frappée par un esprit mercantil. Mais il y a eu des bouquins, et notamment ceux du professeur Jacques Marseille, pour prouver que la colonisation, loin de nous rapporter, a été le fardeau de l'homme blanc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont allés là-bas, peut-être de façon utopique, non pas pour élever des races inférieures, mais parce que il voyait des populations dans le malheur, dans la souffrance, avec des colonisateurs qui étaient là, bien souvent des colonisateurs musulmans, qui étaient là depuis des siècles, et qui faisaient subir. On peut parler de la Mauritanie aujourd'hui, ou du Soudan, où la situation des populations négroïdes qui souffrent sous des maîtres arabo-musulmans est terrible. Et il manque un Livingstone, qui était un ancien pasteur, qui était pasteur d'ailleurs, ancien, pourquoi ancien, qui est un Livingstone pour aller se battre contre les esclavagistes qui continuent de faire subir à ces populations des choses innommables.
Vous voulez dire que, puisque les Européens se sont retirés, aujourd'hui il y a d'autres colonisateurs ?
Il y a des anciens colonisateurs qui ont repris le pas là où ils avaient été chassés par, au XIXe siècle, par les colonisateurs.
Et cela va peut-être nous permettre de passer, si vous le voulez bien, à une étape suivante de la réplique de la soirée. Je l'introduirai par une anecdote. J'étais à Tunis l'an dernier, à peu près la même époque, et là, j'ai rencontré des amis tunisiens, charmants, donc de haute volée intellectuelle, qui avaient organisé une petite table ronde, voilà, un peu comme celle-ci, et ils étaient tout de même dans la ligne de Bourguiba, donc avec un petit reproche à la France colonialiste dont ils parlaient admirablement la langue. Leurs enfants étaient d'ailleurs à HEC.
Butin de guerre, a dit un envoyé de Bouteflika il y a deux jours à la radio.
Oui, oui,
la langue française est un autre butin de guerre.
On va y venir, Serge, en effet. En effet. Alors là, j'ai dit à mes interlocuteurs tunisiens, mais non, on ne vous a pas colonisé. D'ailleurs, ça ne vous a pas tellement mal profité à vous regarder, à vous entendre, je pense. Mais enfin, on vous a changé la colonisation. Parce que vous étiez colonisé par les Turcs, et avec les Turcs, ça se passait différemment. Et là, c'est là que nous avons évoqué ce qu'était la colonisation turque, ce qu'était la réalité aussi bien de l'Algérie que de la Tunisie, avec les Bey. Le Maroc était une autre histoire, en effet, comme tu le dis, Alain. Hein, donc, mais c'était une colonisation de pirates, parce qu'il faut bien dire, c'était quand même essentiellement ça, que le pouvoir délégué par l'Empire ottoman aux Bey d'Alger, et donc à tous ceux qui pratiquaient au barbaresque, qui pratiquait la course.
Alors, je voudrais dire d'abord que je m'exprime en tant qu'ancien colonisé. Je suis un colonisé. Ouais. J'ai été colonisé par l'Empire romain et je m'en félicite tous les jours. Je m'en félicite tous les jours.
Ça t'a pas mal réussi, c'est vrai.
Voilà. Donc, je n'ai aucun complexe à cet égard-là. Et en ce qui concerne l'Afrique du Nord, Bernard a tout à fait raison. Les Français ne sont pas arrivés comme des colonisateurs. Ils sont arrivés bien souvent comme des libérateurs. Alors, c'était des populations qui étaient sous le joug de Bey, qui les faisaient trimer, qui ne correspondaient à rien, qui vivaient d'ailleurs sur les zones côtières, qui allaient de temps en temps faire des ponctions à l'intérieur du pays, qui prenaient les femmes comme esclaves ou comme concubines. Et c'est la raison pour laquelle 35 000 Français débarquant à Sidi Ferruche ont pu avoir raison des 200 000 supposés soldats du Bey d'Alger. Parce que les tribus, et notamment les tribus berbères, et notamment d'autres tribus du désert, n'ont pas vu d'un mauvais œil ces Français qui venaient les libérer d'un maître beaucoup plus difficile à chasser, puisqu'il était là depuis des siècles, que ces Français-là, qui, somme toute, les ont laissés, peut-être pas tort parfois, continuer à pratiquer leur religion.
Oui, c'est pour ça que les Berbères se sont souvent éveillés en notre faveur. On a même dit quelquefois, par un jeu de mots que tu toléreras, Alain, oui, que nous étions des allumeurs de vrais Berbères.
De vrais Berbères, absolument. Hein
voilà, vous êtes tous renvoyés, messieurs.
Alors, là, je voudrais qu'on passe maintenant à la réplique nécessaire. Réplique à laquelle je convie, évidemment, les auditeurs de Radio Courtoisie. S'étale dans toute notre presse en ce moment, dans tous nos médias, les indécents propos de M. Abdelaziz Bouteflika. M. Abdelaziz Bouteflika pense unifier son peuple algérien à grand renfort de démagogie nationaliste, en exigeant donc la repentance de la France avant de signer un accord de paix avec la France. Ceci s'étale, bon, je ne vais pas citer, c'est Le Monde, c'est Libération, c'est Le Figaro. La riposte, c'est dans présent, bien sûr, la réplique nécessaire qu'il faut trouver, c'est tous les jours sous la plume d'Alain sur ce sujet-là dans présent, celle de Jeanne Smith et de tant d'autres, de Jean Madiran, naturellement. Alors, dans temps présent, vous avez réagi à cette campagne qui me paraît absolument impudente. Et que nous n'ayons pas un gouvernement français pour exiger la réplique de la repentance est quelque chose de terrible.
Bernard, peut-être vous pourriez donner à nos auditeurs quelques éléments, parce que pas tout le monde ne lit la presse, pour dire...
Ne lit la grosse presse. La grosse presse, comme je l'ai baptisé, et le mot, je crois, a couru.
Alors, oui. que dit Bouteflika sur notre pays?
Oui, ben, les Français n'ont pas d'autre choix, dit-il. Vous voyez l'orgueil, déjà. Les Français n'ont pas d'autre choix. Hein, ça, c'est la schlag. Que de reconnaître qu'ils sont torturés, tués, exterminés, déclare-t-il à Colomb Béchard à la fin du mois d'août.
Et peut-être que le FLN pourrait reconnaître aussi qu'il a torturé, tué et exterminé.
Voilà. Alors, c'était évidemment ceci, mais un peu plus loin. Hein, voilà, le Bouteflika, dont je rappelle.
Il est allé plus loin. Il a comparé la France à l'Allemagne nazie en disant que nous avions brûlé dans des fours crématoires, en l'occurrence des fours à chaud, des dizaines de milliers lors des événements de Sétif en 1945. Or, il y a eu effectivement quelques cadavres qui ont été brûlés, non pas à la façon des nazis, c'était simplement parce qu'il y avait des risques d'épidémie terribles et que, à l'époque, les fours à chaud ou la chaux vive servaient. Voilà.
Alors attendez, je continue, mais les Français n'ont pas d'autre choix que de reconnaître qu'ils ont torturé, tué, exterminé. Alors c'est le débat que nous voulons bien, mais il faudrait que ce soit le débat à la loyale, que nous puissions donc aller nous expliquer en Algérie comme eux peuvent donc s'expliquer en France. Alors, cela va très loin. Puisque
la différence, Bernard, c'est qu'il y a 6 millions d'Algériens en France et qu'il n'y a plus de Français en Algérie.
Voilà. Mais nous voyons au Conseil municipal de Paris, M. Delanoë, inaugurer, demander la repentance sur Sétif. Tiens, Alain, rappelle un peu ce que furent les événements de Sétif.
Enfin, les événements de Sétif en 1945, c'est très simple. Ça a été un soulèvement contre la France. Il y avait une manifestation qui a dégénéré. Et à partir de ce moment-là, des bandes pré-FLN, si on peut dire, se sont répandues non seulement à Sétif, mais dans tous les villages alentours, et ont égorgé indifféremment. Une des premières victimes, ça a été un garde champêtre musulman. Parce qu'il était musulman, mais il avait le drapeau français ou une décoration française. Et puis après, ils se sont répandus dans les rues, ils ont égorgé indifféremment des dizaines d'Européens, des Juifs, des musulmans, tout ce qui leur tombait sous la main. La répression menée par des tirailleurs sénégalais a été rude, elle a été menée en 2-3 jours, avec l'appui des ministres communistes qui étaient au gouvernement à l'époque.
C'était Thorez. Oui, oublie cela, ils sont en opposition.
C'était Thorez, simplement, qui ont organisé. Et cette répression a fait, suivant les chiffres de officiels français, 1500 morts de part et d'autre, et suivant les chiffres algériens ou les chiffres de leurs dhimis habituels et de leurs sirbabouches habituels, je crois qu'on en est à 45 000 morts.
Oui, il faut rappeler qu'effectivement, à l'époque, c'est le Parti communiste qui dirige la répression. Parce que le Parti communiste pense s'emparer du pouvoir en France, et par le fait même, il s'empare du pouvoir dans les colonies, et on peut
d'ailleurs
dire...
D'ailleurs, une des premières victimes européennes de Sétif, et c'est un des paradoxes de l'histoire, à part ce garde champêtre musulman, c'est un militant, ou je crois même le responsable du Parti communiste, un Européen, à Sétif.
Ben oui, la révolution est grande dévoreuse d'hommes, il se fait...
Et de ses enfants.
Dévorer, bon, voilà. Alors il faut rappeler cela, parce que...
Et il faut rappeler que notre ambassadeur en Algérie, dont le nom m'échappe, mais qui a un
Colin
nom...
Colin Verdier.
Voilà, qui a un nom à grande rallonge, eh bien, est allé à Sétif le jour de cette commémoration par le FLN pour présenter les plus plates excuses de la France. Alors, je sais que nos ambassadeurs et nos diplomates ont souvent baissé le sarroual en Algérie, et notamment en 62, puisqu'il y a eu quand même un consul de France qui à Alger a été attrapé par les manifestants et sodomisé en place publique, là, celui-là est allé se faire sodomiser moralement à Sétif, avec l'appui du gouvernement français.
Alors là, il faut lire aussi les déclarations de Jacques Chirac. C'est il y a peu devant c'est devant le Parlement congolais que invité Jacques Chirac déclarait « Faut avoir conscience du caractère inacceptable des répressions engendrées par les dérives du système colonial. » Bon, alors la répression de Sétif a été dure. Et puis ensuite, c'est toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Cette histoire de la guerre d'Algérie, elle commence le 1er novembre 1915. 1954. L'insurrection est préparée par des groupes qui sont dans la lancée, il faut le rappeler, de la Seconde Guerre mondiale, la guerre civile inter-européenne, en quelque sorte, qui a affaibli l'Europe, c'est bien évident. C'est la défaite, donc, en Indochine, qui va entraîner, au fond, cette levée, cette subversion des peuples non européens. Et là, 1954, c'est une flambée qui commence, qui est animée d'ailleurs par des cadres comme Aït Ahmed, qui sont des anciens collabos d'ailleurs de l'Allemagne. L'Allemagne,
on les verra même, on verra même certains d'entre eux au début se battre avec un casque allemand sur
la
tête.
Bien sûr, parce que les Allemands avaient joué, j'allais dire, pouvaient pas attendre, c'était un peu normal, de bonne guerre. Ils avaient tenté de soulever un grand mouvement
le grand musique de Jérusalem.
Comme les Japonais, dont Japonais et Allemands, donc par un effet de guerre évident, tenter de soulever les peuples colonisés contre les occupants qui étaient leurs adversaires. Alors là, le 1er novembre 1954, c'est l'assassinat des instituteurs Monroe.
Enfin, du mari au moins, la femme très grièvement blessée.
Voilà, et puis c'est le début, et c'est sur cette histoire de la guerre d'Algérie qu'il y a aujourd'hui une désinformation inacceptable qui va à l'encontre, comme en bien des domaines, de l'histoire scientifique. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons observer ceci. C'est que il y a l'histoire dite dans les médias, et puis il y a l'histoire faite par les historiens. Ce que je remarque, c'est que les historiens universitaires, aujourd'hui, s'accordent sur un certain nombre de sujets, et ça n'est pas du tout le traitement de l'information qui est fait ensuite, d'après leurs ouvrages. Alors, ça va être la guerre d'Algérie, oui, Cécile.
Alors, comme il s'agit de répliques, Bernard, je me permets de vous couper pour prendre, par exemple, une phrase là que je prends dans le Figaro. Alors, M. Bouteflika aurait dit que la France serait responsable d'un 1,5 million de martyrs algériens, donc victimes, je cite, de la barbarie française. Oui. Alors, c'est vrai ?
Alors, ce chiffre, parfaitement, on sait très bien. On sait très bien que dans tous les grands débats historiques, il y a fréquemment, en tout cas, un gonflage du nombre des morts. Bon, donc 1,5 million, ça ne résiste pas à l'analyse. Les historiens les plus sérieux disent qu'il y a eu 300 000 morts dans la guerre d'Algérie, ce qui est déjà énorme.
Ce qui est beaucoup.
En revanche, là où nous n'avons pas les chiffres, c'est les chiffres de la guerre civile endémique qui sévit en Algérie entre pseudo-islamistes.
On les a à peu près, c'est plus de 120 000 morts déjà.
Plus de 120 000 morts aujourd'hui. Alors, il est évident que s'il y avait eu 1,5 million de morts pendant la guerre d'Algérie, la population d'Algérie n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui, et celle qu'elle est aujourd'hui. Donc là, on ne va pas rentrer dans une comptabilité qui est faite, qui est établie par les historiens. Les historiens de la guerre d'Algérie s'accordent. Ils discutent entre 200 et 400 000, mais ensuite, c'est pure fantaisie. C'est du gonflage de propagande par M. Bouteflika. En revanche...
Juste peut-être une précision sur ces 300 000, ou enfin, oui, entre 200 et 400 000, est-ce que le massacre des Harkis est comptabilisé, est pris en compte ?
Oui, j'y viens, parce que là, ce sont les chiffres globaux de part et d'autre. Ce que l'on oublie, c'est que cette guerre d'Algérie, ça n'est pas uniquement le FLN contre l'armée française. C'est une guerre civile inter-indépendantiste. Ça va être l'écrasement du mouvement nationaliste algérien de Messali Hadji.
Notamment à Melouza, où un village entier qui était messaliste est égorgé, hommes, femmes, enfants, bébés, par le FLN.
J'ai chez moi encore les photos par
insoutenable.
Insoutenable. De l'époque. Hein, donc ce sont des photos effroyables. Alors donc, dans les morts de la guerre d'Algérie, il faut comptabiliser tous les morts des affrontements, j'allais dire inter-indépendantistes, sans compter les règlements de compte sanglants des vilayas entre elles. Parce que le FLN est pur. Il a
Bernard, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que c'est qu'un vilaya ?
Une vilaya. Une préfecture. C'est l'équivalent d'une préfecture chez nous. Voilà.
C'est un département.
Une administration. C'est un terme, tiens, qui leur vient des Turcs. C'est aujourd'hui l'équivalent d'une préfecture ou d'une sous-préfecture chez nous. Mais à l'époque, c'était une entité contrôlée par tel ou tel groupe du FLN, pour faire simple. Un secteur.
Serge.
Alain parlait tout à l'heure de chiffres. Un auditeur.
passe un message en disant la réfutation la plus probante des propos de Bouteflika, c'est tout simplement que le 13 mai 58, 90% des Français d'Algérie musulmans ont voté oui à la France pour rester français.
Et avec des femmes qui symboliquement retiraient leur voile, qui les transforment en fantômes ou en momies, et qu'aujourd'hui elles sont obligées de les remettre.
Alors c'est pour cela que sur les morts du drame algérien, il faut effectivement une mémoire non sélective. Nous savons bien qu'il y a eu des combattants, FLN, Fedaga, morts souvent courageusement, il faut le dire aussi, il y avait parmi eux des combattants, il y avait aussi de purs égorgeurs, de purs tortionnaire, il faut faire quand même la repentance sur les façons dont le FLN tuait, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire le viol assorti d'égorgement, les enfants qui étaient éventrés, éviscérés, etc. Ces choses-là doivent être rappelées. Parce que quand on nous parle des sévices pratiqués par l'armée française, bon, il y a eu ce qu'on appelle les interrogatoires, oui. Il y avait quelquefois des représailles, mais il faut voir ce qui se passait. Les soldats du contingent qui était attaché à un arbre dont on enlevait la chair, qui était émasculé, éviscéré, etc. Vivant. C'était de longs supplices atroces.
Pour parler des soldats français, mais les musulmans, il faut savoir que les musulmans qui avaient choisi la France ont été plus nombreux à être tués par le FLN que les Européens. Sans parler des 100 000 ou 150 000 harquis.
Oui.
Même avant. On parlait des gardes champêtres tout à l'heure. Le brave type qui avait été décoré, qui avait une croix de guerre de 14-18, celui qui avait été accepté un petit poste dans l'administration, ils étaient tués dans des conditions innommables.
C'est pour cela que il y a la réplique nécessaire. Nous la faisons dans nos journaux, dans le livre journal de Serge de Bekech, dans Présent, dans Reconquête. Je vous parlerai de des prochains numéros de Reconquête et de la réplique du mois. Mais il y a la réplique dans la rue.
Pourquoi est-ce que l'on réplique? Et Bernard va donner une manière de répliquer autrement, seulement que par les mots, mais par le témoignage. Mais on le fait parce que avant la fin de l'année, il va y avoir ce qu'on ose appeler un traité d'amitié franco-algérien. On va signer un traité d'amitié franco-algérien. Alors moi je suis à un moment, il faut dire halte au feu. Je suis d'accord pour arrêter, je suis prêt demain à aimer et à participer à l'évolution et à cette Algérie qui a le droit de vivre, qui l'a gagné horriblement, mais qui l'a gagné dans le sang. Bon, mais c'est un fait acquis. On va pas revenir là-dessus. Mais il faut pas le faire avec des gens qui nous renvoient à la figure des choses abominables, qui nous demandent de nous excuser de ce qu'ils ont fait eux-mêmes et dont ils n'ont aucune idée de repentance.
Alors Bernard, vous avez évoqué, ou vous alliez peut-être évoquer autre façon de riposter. Alors on vous écoute.
Donc l'autre façon de riposter, c'est la réciprocité, c'est la réplique. Nous demandons à M. Bouteflika, et nous demandons à l'État algérien de faire repentance. Si nous voulons avoir des relations normales un jour entre nos deux pays,
ce qui est souhaitable.
La France d'ailleurs n'est sûrement pas si abominable, puisque les Algériens ont envie quand même d'y venir en grand nombre. Si nous étions un pays aussi affreux, on se demande pourquoi ils viendraient dans le pays de leurs tortionnaires.
Et la fortune des dirigeants algériens en France est absolument incommensurable.
Oui, mais ça le petit peuple algérien le sait et le dit, oui. Mais mezzo voce, parce qu'ils n'ont pas intérêt à bouger trop.
Nous demandons, de même que nous demandons, et j'y viendrai, de la réciprocité de ce qui va se passer au Louvre, donc nous demandons la repentance à M. Bouteflika. Nous allons lui dire sur quoi nous voulons la repentance, nous allons lui apporter une lettre, enfin tout cas apporter une lettre à M. l'ambassadeur d'Algérie, et nous allons manifester. Nous allons manifester devant l'ambassade d'Algérie. D'ores et déjà, les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent prendre bonne note. À l'appel de votre serviteur, d'Alain Sanders, de notre ami Jean-François Collin de l'ADIMAD, de Jean-Pierre Cohen qui vous salue ce soir, du Cercle d'Amitié Française Juive et Chrétienne, du Cercle National des Rapatriés des Alpes-Maritimes, de Marie-France Tirbois, etc., etc. Déjà, nous recevons, j'allais dire, d'heure en heure, après nos premiers coups de fil, des adhésions.
occasion à notre initiative, nous allons manifester le jeudi 3 novembre devant l'ambassade d'Algérie, place Rio de Janeiro. Pourquoi cette manifestation?
Parce que métro Alma Marceau.
À quelle heure?
La date à 19h. Nous aurons l'occasion d'y revenir souvent.
À Rio de Janeiro.
Non, Valran. Soyez sérieux, Valran. Donc, ça sera le jeudi 3 novembre. Parce que.
Excusez-moi, je vous coupe la parole.
À 19h.
Vous pouvez redire doucement.
Voilà. Jeudi 3 novembre à 19h devant l'ambassade d'Algérie.
Place.
À Paris.
Place Rio de Janeiro, à Paris, bien sûr.
Métro Alma Marceau.
Voilà. Mais nous aurons l'occasion de le redire. Nous allons négocier l'emplacement exact avec la préfecture de police. Pourquoi le 3 novembre? Eh bien, parce que le 1er novembre, ça serait difficile. Mais le 3 novembre, c'est encore la période des fêtes de Toussaint. Et la Toussaint, on le sait, ça a été le début.
La Toussaint Rouge.
La Toussaint Rouge du 1er novembre 1954. Mais cette manifestation va être, je crois, symboliquement, celle de notre volonté de riposter pied à pied, de riposter coup par coup à toutes les attaques qui nous sont faites. Nous ne devons pas seulement être sur la défensive, nous devons être sur la réciprocité.
Alors Bernard, il faudrait peut-être aussi répliquer à Jacques Chirac, parce que dans le Figaro, toujours à propos de cette histoire Bouteflika, il est dit que Jacques Chirac accompagnera le traité d'amitié franco-algérien d'un geste fort sur la mémoire de la colonisation. Donc lui accepte ces propos de Bouteflika.
Il non seulement les accepte, mais il a fait quelque chose qui résume tout. En visite à Alger l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a serré la main à 2 poseurs de bombes, à 1 égorgeur et 1 poseuse de bombes, Yacef Saadi notamment et Djamila Bouired, me semble-t-il, qui ont plus, ils n'ont pas du sang sur les mains, ils ont une piscine de sang au-dessus de la tête. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait exploser des petits-enfants, qui ont fait exploser des bombes dans des conditions inimaginables. Donc Chirac ayant fait ça, je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus.
Très rapidement, bien sûr, parce que de Jacques Chirac, rien ne nous étonne. Mais il y a les questions des auditeurs. Victoria,
là,
à vous.
Quelques témoignages d'auditrices. Alors, j'ai vécu à Abidjan de 80 à 84 chez un de mes frères, agent général d'un grand laboratoire pharmaceutique. Les autochtones l'appelaient docteur et chaque fois qu'ils étaient souffrants, venaient le voir parce qu'il les soignait. Et nous sommes pourtant des Français de souche. Une autre auditrice, mes parents étaient à Madagascar et j'y suis née. Un jour, dans la salle d'attente de mon médecin en France, il y avait une malgache. Nous avons parlé et elle m'a dit « Quand donc les Français vont-ils revenir ?» Une autre auditrice, il paraît que Brazzaville réclame le corps de Savorgnan de Brazza pour être enterré avec tous les honneurs. Qu'en pensez-vous?
Et ils peuvent le faire parce que Savorgnan de Brazza a été, on parlait de l'esclavagisme, ça a été un grand éradicateur de l'esclavage dans ces régions-là, pratiqué par des Noirs entre eux.
Toujours les auditrices, décidément, elles vous écoutent beaucoup. Dans le monde 2, ce n'est pas seulement l'Algérie qui est colonisée par les Chinois, c'est toute l'Afrique.
Est-ce que je peux faire une petite parenthèse à ce sujet-là? On peut prendre connaissance du livre qui vient de sortir de Florence Baugé, qui est cette journaliste du Monde qui a relaté au moment de la dernière présidentielle les prétendus actes de torture de Jean-Marie Le Pen en 1957. Il faut lire ce livre. Ce livre est... veut retracer les prétendus actes de torture de l'armée française, et on voit vraiment que elle marche la main dans la main avec les autorités algériennes et avec le Parti communiste. Les principales sources de Florence Baugé, ses principales rencontres ont été faites lors de chaque fête de l'humanité.
C'est peut-être un livre qu'il faut lire, alors. Tu dis que c'est un livre qu'il faut lire.
C'est un livre qu'il faut lire. Si, il faut le lire pour savoir ce que c'est. Parce que Bouteflika, au nom prédestiné, il faudra lui répondre, mais comme toujours, nous aurons en France les porteurs de valises, c'est-à-dire les accompagnateurs de ces demandes de repentance de la part de M. Bouteflika, et ce sera eux presque principalement qu'il faudra combattre.
Ils le font parce qu'il y a un gouvernement complaisant. Bernard parlait de Delanoë tout à l'heure. Delanoë s'ingénie partout à Paris et les autres dans la région parisienne à donner des noms de places, de ponts, de rues, de squares à des gens qui ont été des traîtres Carrément. Alors bon, c'est pas...
Mais moi, je crois qu'on pourrait faire un geste, quand même. Parce que je suis assez d'accord avec l'idée de Chirac de faire un geste et, à l'égard de l'Algérie. Et on pourrait commencer par leur rendre les prisonniers. C'est scandaleux que, soit, que presque 40 ans, plus de 40 ans après la fin de la guerre, on ait gardé autant de prisonniers algériens.
Voilà, ça rejoint mon propos. Mais c'est voté à l'unanimité, Serge.
Alors, Victoria. À propos des livres, pourriez-vous nous indiquer justement des livres sur l'esclavage, notamment sur l'esclavage du côté de l'Asie, du 6e au 13e siècle environ?
Que cette auditrice, si c'est une auditrice, c'est un auditeur, je veux pas. Si c'est une auditrice, c'est un auditeur, qu'elle m'appelle après l'émission, je lui donnerai une liste de qu'elle prenne. Je lui donnerai deux ou trois feuillets de titres, si elle veut.
Oui, il y a tout à faire. J'ai été un auditeur nous dit, j'ai été libraire il y a longtemps. Dans les années 90, il y avait un livre, Esclavagisme et judaïsme, Esclavagisme et judaïsme, mais je ne me souviens plus de l'éditeur. Non, le non, connaissez-vous?
Non, non.
Alors Serge de Bekech, qui sait tout, m'a noté qu'on c'est Juif et négrier d'Ernest Pluchon aux éditions Talendier.
Bah voilà, Talendier,
grande édition historique. C'est un travail extrêmement sérieux.
Et quelqu'un aussi posait la question pour votre site. Alors, le site de Serge de Bekech, qu'est-ce qu'il devient? Donc, vous m'aviez répondu qu'il était...
En maintenance, on va le ranimer, là, prochainement.
Mais que ça prendra quelques semaines, ouais. M'aviez-vous précisé tout à l'heure. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont vos sources, toujours, Serge de Bekech, concernant le traité des Irlandais? La traite des Irlandais par les Anglais.
Il y a plein de bouquins, notamment un bouquin qui s'appelle They Were White and Slaves, ils étaient blancs et esclaves, qui est paru malheureusement uniquement en anglais.
Il y a des dizaines de bouquins aux États-Unis sur le sujet. Des dizaines, je dis bien des dizaines. Et si quelqu'un veut encore les références, et peut-être qu'à l'occasion, ça me donne une idée, je ferai peut-être une page 4 un samedi.
Voilà. On peut écrire, donc je le rappelle, pour le complément de cela, on peut écrire Alain Sanders, Journal Présent, 5 rue d'Amboise.
J'ai beaucoup de textes. Oui. Si les gens lisent l'anglais, en plus, je leur enverrai directement des études dans les revues historiques américaines, notamment, pas les livres, parce que c'est des gros livres, mais bon, il y aura largement...
Il y a là-dessus un article très, très documenté de Laurent Glosi, il y a quelques mois, dans le livre journal.
Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a quelques années, dans Écrit de Paris, il y avait eu un article sur le sujet très intéressant. Je ne sais plus quand, mais on le retrouverait.
Alors, un certain nombre d'auditeurs... pose des questions à propos du rendez-vous pour la manifestation contre les négociations avec la Turquie du lundi 10 octobre. Alors, il y a deux rendez-vous.
Non, il y a un rendez-vous contre la Turquie et un contre devant l'Algérie, c'est autre chose.
C'est deux choses. Attendez, alors je vous dis ça. Hein. Pour Bruno Maigret, le rendez-vous, c'est à 17h30, square à l'angle de la rue d'Ankara et de l'avenue du Général Mangin, métro Passy, RERC, président Kennedy. Et pour Paul-Marie Couteau, c'est à 18h30.
Cours Albert Ier.
Mais vous avez fini de me couper bêtement la parole. Alors, je recommence. Pour Paul-Marie Couteau, c'est à 18h30, devant le monument arménien, cours Albert Ier, pont des Invalides. Voilà. Bon, et puis alors, autrement, le rassemblement... Ben oui, c'est celui-là. Donc, j'ai fini. Et alors, je fais mes deux annonces pendant qu'on y est, comme ça je vous serai bien tranquille. L'abbé de Tanoirne annonce la conférence le 4 octobre à 20h, 12 rue Saint-Joseph au centre Saint-Paul, sur le thème « La doctrine de Benoît XVI sur la liturgie traditionnelle » par Monsieur l'abbé Barthes. Et vendredi prochain, 30 septembre, de 15h à 18h30, le docteur Jean-Pascal Cerbera dédicacera « Docteur, vous me soignez mal ». Et samedi prochain, 1er octobre, de 15h à 18h30, Daniel Raffard de Brienne dédicacera « La désinformation autour de Jésus et Marie » à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Un livre très important, je crois que Serge vient d'en parler, puisqu'il recevait Raffard, d'autant que le livre de Duquesne, Marie, vient de sortir un livre de poche. Donc il va se vendre, et c'est le contrepoison à recommander.
Bon, je voudrais ajouter que je me réjouis de ce qu'il y ait des manifestations face à l'ambassade de Turquie. Nous avions été des pionniers en l'occurrence, comme toujours. Je crois que nous sommes souvent les premiers dans la rue avec Chrétienté et Solidarité. Je me réjouis donc de ces manifestations devant l'ambassade de Turquie. Je voudrais ajouter aussi, avant d'aborder un autre sujet, que, comme promis, j'ai écrit au prince Al-Walid.
Alors on va peut-être
Al-Walid,
rappeler...
je te plumerai alors.
On va peut-être rappeler tout d'abord pour nos auditeurs ce qu'est cette affaire, Bernard.
Non, je vais être très rapide parce que j'en ai parlé ici même à la précédente émission de Serge de Bekech. L'affaire, c'est tout simplement les salles qui vont être consacrées au musée du Louvre sous prétexte d'art islamique, on n'aurait rien contre, mais à faire du prosélytisme pour la compréhension, je cite, du vrai sens de l'islam, une religion d'humanité, de pardon et de tolérance. Alors, comme prévu, j'ai écrit à Riyad au prince Al-Walid, d'une manière très courtoise. On pourra lire cela dans la prochaine livraison de Reconquête qui sortira d'ici une dizaine de jours. J'ai demandé au prince Al-Walid qu'il puisse y avoir des salles d'art chrétien au musée de Riyad et naturellement je réitère ma demande pour qu'il y ait, que l'on puisse construire des églises en Arabie Saoudite. J'indique au prince Al-Walid que je ne lui demande naturellement aucune aide financière, mais qu'en revanche, je souhaiterais pouvoir acquérir des pauvres terrains comme il y en a, l'Arabie est grande. Je me rendrai en Arabie Saoudite volontiers avec par exemple le père Ardouache, hein, je suis sûr qu'il m'accompagnerait et on verrait ce que l'on peut acquérir
à l'aller, il n'y a aucun problème.
Donc on verrait ce que l'on peut acquérir à Riyad, à Taif, à Jeddah, que sais-je encore. Voilà. Mais le texte de ma lettre qui a été lu à Villepreux il y a quelques jours donc est bien parti sur Riyad et il y a même une traduction en arabe pour les auditeurs donc qui souhaiteraient
ce voir qu'on appelle le téléphone arabe.
C'est pas le téléphone arabe. Voilà. Alors, chers amis, et d'ailleurs la couverture de Reconquête, vous voyez, je peux en donner la primeur. C'est un Louvre légèrement modifié. Voilà, Serge. On voit le Louvre surmonté des minarets qui ne manqueront certainement pas au train où nous allons d'être construits, parce que je vois pas où cela s'arrêtera si nous ne manifestons pas notre opposition. Alors maintenant...
C'est juste un correctif. La manifestation contre l'ambassade devant l'ambassade de Turquie aura lieu, cour Albert Ier, le 3 octobre, et non pas le 10, le 3 octobre, voilà.
Et celle-là est à l'appel de la voix des Français et du RIF, pour être complet.
Bon, écoutez, pas de rififi sur ces questions de manifestation. Voyez, nous, on a pris soin, c'est le 3 novembre, c'est plus loin, nous y reviendrons. Alors, demain, il y aura, à la 17e chambre, une plaidoirie de Valran de Saint-Just sur donc une plainte de la GRIF.
Mais va, soyez long.
Il va nous en dire. Il va nous en dire un mot. Et puis, je voudrais aussi qu'il relève, qu'il fasse la réplique de ce que nous avons lu hier dans Le Monde, à savoir donc dans Le Monde et ailleurs, Libération, Le Figaro, tout le débat sur la discrimination positive.
Je peux peut-être dire un mot du procès de demain.
Oui, je voudrais d'abord que vous parliez du procès de demain.
Alors c'est un procès que la GRIF a intenté, comme elle en intente un certain nombre, et c'est un procès qui est fait contre un dessin qui est paru dans le journal Libération du 25 avril 2005. Et je voulais simplement, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, vous exposer l'argumentation de Serge July, telle qu'elle sera donnée demain, et elle est tout à fait passionnante. Il nous dit ceci. La GRIF, dans sa citation, répute injurieuse la publication d'un dessin signé de Willem et représentant le Christ entièrement nu dans la position du crucifié et dont le sexe disproportionné est revêtu d'un préservatif. Et il a raison, c'est bien ce que la GRIF répute injurieuse. Mais voilà ce que nous dit monsieur Serge July. Et ça ne peut pas être injurieux parce que le dessinateur a prêté au Christ une attitude tout à fait civique et en tout cas responsable, puisqu'en l'affublant ainsi d'un préservatif, il a tenté d'expliquer que si le Christ était en vie, il ne pourrait qu'inciter les chrétiens à porter des préservatifs pour lutter contre les ravages de la pandémie de sida en Afrique. Que force est de constater que le dessin querellé loin de revêtir un quelconque aspect injurieux vis-à-vis des chrétiens, est bien au contraire élogieux à leur égard, puisqu'il prête au message chrétien transmis par le Christ un contenu de protection et de tolérance donnant à l'homme une place centrale qui justifie que des entorses puissent être faites à la doctrine pour préserver l'espèce humaine. Vous voyez, oui, mais Serge Julliet a raison d'analyser les choses comme ça et de prétendre cela. S'il fait admettre cela au tribunal, ce qui est fort possible, il gagnera son procès. S'il ne le fait pas admettre et que c'est notre thèse qui prévaut, nous gagnerons notre procès. Donc, ce procès, dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui se plaide demain, est encore un procès emblématique et nous serons heureux de savoir ce que le tribunal va décider.
Valran, si tu permets, il a raison dans sa logique ignoble.
Dans sa logique ignoble, mais oui, mais bien d'accord.
Non,
nous on parle au deuxième ou au troisième degré. Oui, hein,
quelquefois, l'expérience...
Non, mais pour gagner son procès, il faut qu'il dise ça. Et il rentre vraiment dans le débat de fond.
L'expérience m'apprend qu'il faut quelquefois préciser les choses.
Bien entendu, pardon.
Et je tiens bien, personnellement, car c'est moi qui t'ai demandé de te rester avec le talent qu'elle tient, le courage qu'elle tient, cette affaire-là qui est absolument ignominieuse, parce que ça n'est pas seulement une injure faite aux chrétiens dans leur croyance, c'est aussi, il faut le dire, ça n'est pas sur le plan du droit, mais c'est l'injure au bon goût, à notre civilisation. Enfin, c'est réellement là la propagande dans l'abject. Et le raisonnement de Serge Julliet, je pense qu'il faudra lui accorder de l'importance dans nos journaux, Serge, hein, parce que là, on a la quintessence de toute la pourriture que nous affrontons.
Ah oui, c'est ça, c'est vraiment...
Et donc, je n'ai pas d'autres mots à dire, et je pense que, en tant que chrétien, là, j'exprime mon insurrection morale, je pèse mes mots.
Et l'importance du combat toujours renouvelé de la griffe.
De la griffe. Alors, c'est pour cela, je fais appel aussi aux auditeurs, qu'ils adhèrent à la griffe, ça n'est pas cher. La griffe est un syndicat. C'est un syndicat et de 10 euros d'adhésion. Oui, cher Valran, il faut rappeler cela à nos auditeurs.
C'est plus facile de dire cher Valran. Le rang que cherche.
C'est pour ça qu'il est toujours fâché avec moi.
C'est pour ça qu'il n'aime pas Serge.
La griffe, c'est 70 boulevard Saint-Germain et l'adhésion à la griffe, c'est 10 euros. Maintenant, il y a la question de la discrimination positive. La discrimination positive, dirait Cécile, elle voulait dire quelque chose, là, hein?
Oui, effectivement, je voulais dire quelque chose, mettre en fait plus exactement, vous poser une question. Parce que lorsqu'on défend une affaire, me semble-t-il, on doit s'appuyer sur des textes, et donc ce n'est pas sur une argumentation, disons, idéologique que se fait le jugement, mais sur des textes de loi, me semble-t-il. Alors là, vous venez de nous donner une argumentation qui pour moi me semble idéologique de Monsieur Julliet. Comment est-ce que vous faites pour défendre?
Très, très rapidement, hein, nous plaidons que ce dessin est une injure, c'est-à-dire qu'il outrage les chrétiens dans leur dignité. Et Serge Julliet nous répond, mais pas du tout. Ce dessin n'outrage pas les chrétiens dans leur dignité, c'est pas une injure, puisque justement, il dit ce que devrait être l'attitude des chrétiens. Voilà. Mais c'est comme ça que Serge Julliet, il rebondit sur le plan juridique, et il dit, comme je ne vous outrage pas, c'est pas une injure sur le plan juridique, et vous devez perdre votre procès. Voilà.
D'accord.
Mais vous avez eu raison.
Pour ceux qui veulent
poser
en savoir plus, ils peuvent aller demain écouter Maître Saint-Just, c'est toujours un plaisir.
Voilà. Alors la discrimination positive. La discrimination positive, mais je ne vais pas parler tout seul, il va falloir que vous m'interrompiez, que vous me posiez des questions, mais c'est intéressant parce que là aussi, je pense que le fait que le débat ait lieu de cette façon-là, et qu'on voit un certain nombre de personnes être un peu comme des papillons dans un bocal, c'est l'aveu de l'impuissance, c'est l'aveu de l'échec, et notamment l'aveu de l'échec en ce qui concerne la politique d'immigration.
Non, mais c'est le débat, je voulais quand même le situer, parce que j'ai fait allusion tout à l'heure aux articles de la presse d'aujourd'hui, c'est le débat dans le gouvernement. Alors, nous savons très bien,
j'ai fait une liste,
qu'il s'agit, c'est pour ça, là, il faut le rappeler, d'un débat politicien. Parce que, en réalité, voilà, les protagonistes épousent des thèses en fonction de leur pur intérêt politicien. Si Chirac est pour cela, on est contre. Alors, voilà, en ce moment, un Sarkozy qui est pour la discrimination positive. Du coup, on voit monter les Chiraciens contre la discrimination positive.
Oui, c'est là, le clivage, c'est vrai. C'est
vrai, mais l'esquivage est peut-être encore un petit peu plus différent. Hein. C'est vraiment celui qui se heurte le plus les ailes aux parois du bocal, comme tu l'as dit maintenant, c'est Nicolas Sarkozy. C'est un peu la même chose que ce qu'il dit par rapport à la castration chimique des délinquants sexuels et des récidivistes, affaire que nous connaissons bien aussi. C'est l'aveu d'impuissance et de l'échec total de la politique pénale menée depuis des dizaines d'années et d'arriver à être obligé de proposer cela. Alors arriver à être obligé de proposer la discrimination positive, c'est l'aveu d'impuissance, c'est l'aveu de l'échec. Alors j'ai fait une petite liste de ceux qui étaient pour et de ceux qui étaient contre. Alors, c'est amusant. Alors les contre, il y a Villepin. On a cru au moment qu'il était pour, mais on n'avait pas bien compris. Et puis finalement, là, comme Sarkozy est pour, il est contre. Azouz Begag. Vous savez qui est Azouz Begag, c'est un ministre.
Un romancier pornographique.
Ah oui, ah non, c'est un ministre.
De la région de Lyon.
Bon, eh bien, il est contre, lui. Luc Ferry vient de se déclarer contre. Luc Ferry préside un organisme extrêmement important qui s'appelle le Conseil d'analyse de la société. Il rejette la discrimination positive.
Non, mais non, attention.
Mais pas complètement. Hein.
Non, il la rejette pas. Il demande qu'on l'appelle autrement.
Non, oui.
Non, il la rejette pas. C'est lui le patron du rapport en question.
Mais tu vois, il veut quand même développer les outils statistiques de repérage de l'origine ethnique dans les entreprises.
Oui, c'est
parce que veut. Mais non, ça va être permis. Non, laissez-moi mon papier, deux minutes.
Il n'est pas contre.
Parce que cela va permettre de démontrer que certaines entreprises pratiquent la discrimination à l'embauche. Alors voyez tous ces beaux démocrates, ils sont toujours pour le flicage et la dénonciation. Monsieur Fourtou, par exemple, bien nommé, qui vient de sortir un énorme rapport sur la lutte contre les discriminations ethnique dans le domaine de l'emploi, dit mais il faut des procès. Et il faut que ces procès soient exemplaires et convenablement médiatisés. Alors là, ils porteront tous leurs fruits et ces méchants entrepreneurs vont savoir et d'ailleurs ne resteront
je
pas
beaucoup.
Je peux
t'interrompre d'un
non,
tout petit truc.
Au contraire.
Dans le rapport en question, on parle de minorité visible.
Visible.
Est-ce qu'il y a une expression plus raciste que celle-là?
Voilà.
Quelle est, à partir de quand devient-on une minorité visible ou invisible? Bah, oui. Quels vont être leurs critères?
Ah, non,
sinon des critères ethniques, c'est donc racistes.
Terrifiant. Alors donc le contre, les pour, il y a Sarkozy, je vous l'ai dit, Fourtou, on n'arrive pas bien à savoir, le rapport est trop long. Parizeau, la nouvelle déesse du MEDEF, elle est pour.
Ah oui, rien à voir avec votre confrère maintenant.
Elle est pour. Jamel Debbouze est pour.
Oui.
Et celui qui est contre, alors le plus intéressant, le plus amusant, la discrimination positive, c'est notre ami, notre camarade Guy Konopnicki.
Ah.
Et comme souvent, on ne le lit pas assez, il a écrit un très bon article dans Marianne, hein, et il aligne Jamel Debbouze. Il dit « Jamel Debbouze trouve l'idée épatante. Il a pourtant remarqué que les Noirs qui apparaissent sur l'écran de LCI sont en fait des métis diplômés et beaux gosses. Passons sur métis. S'il faut des quotas avec nuanciers de couleurs, la composition des plateaux deviendra une science complexe. Qui choisira pour présenter le journal un type inculte au visage repoussant, sélectionné en réseau du noir très soutenu de sa peau. C'est Konopnicki.
Si c'est un nain, voilà. Ça gêne personne en plus.
Bon.
Ça.
Oui, bien. Alors, il faudrait peut-être pour les
auditeurs. Font jouer Othello par un Scandinave et le roi Arthur par un Africain.
Il faudrait peut-être pour les auditeurs rappeler quand même ce qu'est la discrimination positive, en quelques mots.
Alors, la discrimination positive, pour devenir plus sérieux, c'est ce qu'ont écrit messieurs BBA. Et Colomb, qui sont toujours de très grands entrepreneurs, okay. Au sein de l'Institut Montaigne, accompagné d'une manière de monsieur Yazik Sabeg, et ils ont écrit toute une charte de la diversité que la Griffe a transportée d'ailleurs devant la justice. Et ils disent ceci, voilà la discrimination positive qu'on connaît, on sait ce que c'est, on l'a vu aux États-Unis. Je crois que la Cour suprême a dit
ça fait 15 ans qu'ils l'ont abandonné.
Oui, la Cour suprême a encore dit que c'était toujours constitutionnel, mais enfin bon, voilà. Nos entreprises doivent au plus vite, ça c'est pas les États-Unis, c'est BBR et Colomb, doivent au plus vite formaliser et valoriser leurs engagements en faveur de la charte de diversité pour ouvrir l'accès à l'élite aux candidats maghrébins, noirs ou asiatiques. Et de plus en plus fort, monsieur Henri Lachman, PDG d'une très grande entreprise, c'est plus exactement
bon, alors,
laquelle.
Mais... Je me permets de vous couper juste 30 secondes, Valentin Saint-Just, parce que là, il s'agit de mesures de préférence
ethnique.
Oui.
La préférence nationale est dans ce pays, de fait, sinon des jurés, combattue.
Oui.
Pour les jeunes auditeurs qui n'ont pas manié ce concept de discrimination positive, il s'agit donc de le définir. C'est une politique de mesures favorisant des minorités ethniques, dites visibles, l'Institut Montaigne précise, des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques.
Et c'est insultant pour ces gens-là.
Bien sûr.
Dans la mesure, le rapport dont tu faisais état de ton ami Luc Ferry, du CAS, dit par exemple qu'il va falloir revoir les concours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont supposés lambda, qui devront avoir 12 ou 13 pour être admis, et d'autres qu'on va supposer pas capables ou qui n'ont pas eu les mêmes égalités de chance, au nom de quoi mesurer comment, qui devront avoir que 8 ou 7 pour avoir... Donc c'est une discrimination à l'égard... C'est antidémocratique,
c'est
ça se noue.
C'est déjà le cas à Sciences Po, à Paris, depuis quelques années.
Et à l'ESSEC.
Mais Bernard, si tu permets, Monsieur Lachmann, voilà ce qu'il disait dans le Figaro, il faut encourager ouvertement l'embauche des gens différents... Ah bon, différent, c'est lui qui le dit. Hein. Et notamment des minorités visibles, comme les Arabes et les Noirs. Pour l'instant, ajoute-t-il, et ça c'est fou, hein, on est obligé de donner des instructions orales pour ne pas choquer, pour ne pas être traité de raciste. C'est incroyable. Si quelqu'un avait écrit, il faut des minorités comme les blancs de couleur de peau, mais on serait en prison.
Voire comme les jaunes, parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
Ça aurait été absolument... Alors...
Je dois dire que mes filleuls indochinois, parce que cela ne se sait pas beaucoup.
Ils n'ont pas eu besoin d'être discriminés positivement.
Je me suis occupé de filleuls rescapés. Ma petite filleule, elle, a intégré HEC sans discrimination positive. Elle était première au concours. Et les deux autres ont été premiers dans deux écoles.
Mais dans les écoles de banlieue, les petits Vietnamiens sont premiers.
Ils suffoquent d'indignation devant de telles choses. Ils disent, mais c'est nous prendre pour qui? Comme si nous avions besoin qu'on nous donne 5 points de plus. Tu considères qu'il y a une atteinte raciste dans cette affaire-là.
Ouais. Et la griffe a naturellement donc transporté devant la justice ses écrits de l'Institut Montaigne et ses propos de M. Lachmann, et elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile intéressante, je dois le dire, en taxant ses propos et ses écrits de provocation à la discrimination ethnique raciale. Cette infraction existe depuis la célèbre loi Pleven de 1972, et il faut que cette loi de temps en temps serve. Elle ne sert pas assez, d'ailleurs. Bernard a eu le plaisir d'aller s'expliquer devant le juge d'instruction chargé de l'affaire. Ce juge d'instruction avait eu cette réaction. Il m'a dit, mais vous comprenez, on ne va pas être obligé de mettre toutes les responsables politiques en examen, parce qu'ils sont tous d'accord pour la discrimination positive. Et on a vu à ce moment-là qu'on allait vers le non-lieu. Et on a été vers le non-lieu. Alors cette ordonnance de non-lieu est intéressante parce qu'elle dit, parce qu'elle ne dit pas, mais elle taxe, elle fait grief à la griffe de nos représentants de l'association de partie civile, c'est-à-dire à toi Bernard, tu as expliqué que tu te situais au niveau des principes. Et ça t'est reproché. Ah bon. Mais tu ne pouvais pas illustrer ta plainte par des cas précis. Ah ben non, c'est une question de principe et nous attaquons des textes et des écrits. Des cas précis, ce sont ces textes et ces écrits. Alors est-ce que ce juge et le procureur n'ont pas compris ou est-ce qu'ils font exprès de ne pas comprendre? C'est la question qu'on se pose. Et puis surtout, ils ont rendu l'ordonnance de non-lieu parce qu'ils ont écouté, ils ont quand même interviewé la police, interviewé longuement Bébéard, Lachmann et Sabeg. Ils ont dit, mais nous n'avons aucune intention malfaisante ni délictueuse. Je me suis permis de dire au juge d'instruction que dans ce genre de délit, la question d'intention, c'est la Cour de cassation qui l'a toujours dit, n'était jamais prise en considération. Je veux pas être pédant, mais c'est en vertu de l'adage res ipsa loquitur, c'est-à-dire la chose se suffit à elle-même. Vous avez écrit ceci, vous avez dit ceci, le délit est constitué, on ne va pas savoir quelle était votre intention,
on ne va pas fouiller votre âme,
vous allez être condamné parce que vous avez dit ceci et que ça se suffit à soi-même. Eh bien, pas du tout. L'objectif poursuivi est tout à fait noble de ces personnes. Il n'y a pas d'intention de discrimination positive et nous n'avons pas encouragé, dit M. Bébéa, l'embauche exclusive de certaines personnes en raison d'origine particulière. Ah, ils n'ont pas écrit qu'il fallait n'engager que des Noirs ou des Arabes. On peut encore engager, selon eux, quelques Blancs. Alors, vous avez été bien gentil, M. Bébéard, M. Lachmann, donc on ne va pas vous poursuivre et vous n'allez pas être condamné à la requête de cette association qui est la griffe
présidé par l'ignoble Bernard Antony.
Moi, voyez-vous, je pense un peu ce soir au petit peuple de France que je connais, parce qu'il se trouve que...
Que tu en viens.
Que j'en viens. Que mon
comme
épouse
beaucoup d'entre
vient
nous.
D'un milieu de petit prolétariat du textile mazamétain, et je regarde, je parle souvent avec les petits-enfants de ces régions déshéritées, comme il y en a partout en France, et pour eux, il n'y a aucune discrimination positive, parce qu'ils ont une école dans laquelle ils n'apprennent plus rien. Ils ne vont plus au catéchisme parce qu'il n'y a plus des curés pour leur enseigner pourquoi ils vivent et pourquoi ils meurent. Et je vois ces pauvres gosses qui, eux, vont être voués définitivement peut-être à constituer un lumpen prolétariat. Et c'est en cela que nous exprimons une révolte profonde de notre peuple devant le racisme qui nous assaille. Et c'est pour cela que réellement, je crois que la griffe est un grand combat de contre le racisme anti-français.
Et je me souviens, moi, d'un monsieur que nous connaissons aussi, mais qui avait été condamné il y a plusieurs années en province, parce qu'il était directeur d'une société d'HLM, mais il avait eu le malheur de demander aux candidats aux sociétés d'HLM, à un appartement, la nationalité de leurs parents. Et il a été condamné correctionnellement au profit de SOS Racisme. Et voilà ce qu'écrit aujourd'hui M. Fourtou. Et ça montre, je pense, qu'ils ont dans le cerveau, il ne doit plus y avoir grand-chose. L'une des principales faiblesses du modèle français d'intégration est la cécité qu'il s'impose vis-à-vis de l'origine ethnique et même géographique des individus dont il ne veut connaître que la nationalité. Sur les moyens de lever concrètement ce tabou prétendument républicain, et au moyen duquel mon client et d'autres ont été condamnés, a été condamné correctionnellement, et de procéder au recensement correspondant, les avis divergent, y compris, etc., etc. Alors maintenant, en 2005, M. Fourtou dit que c'est un tabou prétendument républicain, alors que c'était un des socles, croyons-nous, de la cette république
égalitaire.
On ne prend pas en considération l'origine ethnique, l'origine raciale,
l'origine sociale,
la religion. Enfin, j'allais dire merde. On a quand même baigné là-dedans. Eh ben non, tout est changé, messieurs et mesdames, tout est changé. Il faut s'y faire. Et vous voyez, quand on essaie de protester devant la justice,
qu'on a le droit de faire alors. Je suis perdu.
Oui, mais c'est-à-dire, c'est Monsieur Fourtou le bien nommé. Il faut reconnaître. Alors, quant au juge d'instruction, évidemment, les influences sont multiples et variées, et même avariées, parce qu'enfin, le bon peuple n'y comprend plus rien. Entre donc Luc Ferry, qui déclare être contre la discrimination positive, mais dont le texte revient à dire qu'il est pour,
oui,
parce que c'est exactement cela.
Exactement.
Alain, très exactement, j'ai lu son texte avec beaucoup d'attention. Sarkozy, qui est pour, mais qui vous dira bientôt qu'il est contre, tout cela est absolument affligeant. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous voudrions revenir à un bon ordre des choses qui consisterait à à accueillir dans les entreprises les gens compétents sur le strict critère de compétence, à accueillir dans les concours des élèves et des étudiants sur le strict critères de leurs compétences et de leur savoir. Voilà donc tout le débat sur la discrimination positive, mais je pense que là, la griffe éclaircit le débat et la plaidoirie, les plaidoiries que tu auras à faire, car ce n'est pas le dernier procès que nous allons intenter probablement sur le sujet, seront révélatrices de la décomposition intellectuelle de ceux qui nous gouvernent.
Une petite question à vous poser. Pouvez-vous rappeler à quelle heure et dans quelle chambre a lieu le procès contre Libération?
Dans quelle chambre? Voyage
devant
autour de ma chambre. C'est demain à 13h30 devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Chambre que les
auditeurs.
Chambre que les auditeurs et les lecteurs de nos journaux connaissent par cœur.
La 10e, pas la 17e.
17e.
Je rappelle l'adresse de la griffe, 70 boulevard Saint-Germain, dans le 5e, et l'adhésion à la griffe, 10 euros.
Par an.
Par an, oui. Cela permet à Maître de Saint-Just, à Maître Trémollet, à bien d'autres, à Maître Bonneau, à Maître Navio, de plaider. Et voilà ce que nous faisons.
Gracieusement, presque.
C'est-à-dire, il faut bien les défrayer, il faut qu'ils vivent aussi. Mais je crois qu'ils ont...
En n'insistant pas.
Beaucoup d'héroïsme. Ils ont beaucoup d'héroïsme dans affaires-là.
On m'a dit qu'il allait au tribunal en courant derrière un autobus pour faire les économies de tickets. Il dit qu'il aurait bien fait de courir derrière un taxi, il aurait économisé beaucoup.
Ah ouais.
Mais enfin, ces procès sont quand même, sur le plan intellectuel, très intéressants et sont la démonstration, quelquefois par l'absurde, de ce que tu as très bien dit, de cette décomposition intellectuelle de nos prétendues élites. C'est ça qui est affligeant. Plus que les résultats eux-mêmes, c'est de voir leurs contradictions, de voir les n'importe quoi qu'ils peuvent raconter. Et c'est ça qu'il faut essayer de montrer au peuple français.
Eh bien, nous en parlerons, si Serge de Becquet le veut bien, dans la prochaine émission de La Réplique, car nous avons d'autres procès qui viennent, et l'actualité en sera très riche.
Merci Bernard, comme dit la célèbre émission de télévision, merci Maître Valente Saint-Just, merci Cécile Montmirail, merci Alain Sanders, Victoria, merci Serge de Becquet, merci. Merci à tout le monde.
J'ai le temps de faire une petite pub pour présent.
Oui.
Deux secondes. Parce que je vois quelqu'un qui dit la diffusion de l'information, c'est maintenant l'Internet. Qu'attendez-vous pour mettre tout ça en ligne? Eh bien, je signale qu'on peut s'abonner pour très peu cher, nous écrire à présent, 5 rue d'Amboise. Nous avons tout ça en ligne. Il suffit de s'abonner. Vous serez abonné à présent sur Internet. Voilà.
Ah, et il faut, on peut s'abonner, on a un mot de passe et on rentre dans l'édition.
Absolument, tu as tout compris.
Ça, c'est très intéressant. Je ne le savais pas.
Je savais qu'il était intelligent, mais j'aurais jamais cru que c'était à ce point. Merci à tous. Bonne semaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becquet avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 28 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 29, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par France.